Et si le vieillissement n'était pas une fatalité, mais une maladie au même titre que le cancer ou le diabète? C'est le postulat de plusieurs chercheurs, comme David Sinclair ou Peter Attia, qui pensent que l'espérance de vie humaine pourrait atteindre 150 ans. Aujourd'hui, je reçois le docteur Denis, anesthésiste-réanimateur passionné de biohacking, qui a lui-même testé plusieurs de ses protocoles censés nous faire rajeunir. Si son crâne chauve ne permet pas de compter ses cheveux gris, son physique, lui, s'est métamorphosé. Loin d'une vision réductionniste de la biologie, le docteur Denis remet au contraire beaucoup de bon sens dans nos choix quotidiens pour rester en santé et exprimer notre plein potentiel sans attendre de pilule magique. Résolument tourné vers la science, il n'en reste pas moins connecté à son cœur qui guide ses pas autant qu'il les nourrit. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, start-upper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute! Bonjour Denis.
Bonjour David, ravi d'être là avec toi et avec toutes les personnes intéressées par tes projets.
Eh bien écoute, moi je suis honoré de te recevoir sur Limitless Project et j'ai l'habitude de démarrer ces podcasts par un petit check-in où tu me racontes un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens pour enregistrer avec moi aujourd'hui.
Ah, alors on n'est peut-être pas tombé le meilleur jour. Non, parce qu'en fait hier j'avais une réunion qui s'est terminée extrêmement tard. Et puis comme quelle que soit l'heure à laquelle je m'endors, je me réveille entre 5h et 6h très naturellement sans aucun réveil. Même si je milite toujours pour une durée de sommeil régulière, je dois avouer que je n'ai pas été un bon élève, donc je n'ai pas eu une qualité de sommeil optimale. Mais ce mis à part, je suis en grande forme parce que je suis ravi d'être là et je suis boosté plein d'énergie.
Ça s'entend. Et je souffre de la même maladie que toi. J'ai aussi tendance à me réveiller tous les matins vers 5h30, 6h, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche. Du coup, j'essaie de me coucher toujours avant à 22h. Donc voilà, mais bon, il peut y avoir des exceptions. Et pour ma part, le petit check-in, écoute, je suis plein d'énergie, pour être tout à fait honnête avec toi, parce que ce matin, j'ai fait un call avec Stéphane Johnson, avec qui je prépare une masterclass sur la respiration. Ensuite, avec Gabriel, dont on a précédemment parlé, un start-upper qui a revendu sa boîte et qui maintenant s'intéresse à la longévité. Et tout ça, tu vois, toutes ces conversations me donnent énormément d'énergie. Je suis super heureux de poursuivre avec toi, de pouvoir recueillir tes connaissances, ton expérience, parce que t'es anesthésiste réanimateur, passionné de biohacking, t'as testé plein de choses. D'ailleurs, je te propose de commencer par cette question de la longévité et notamment de ce livre un petit peu fondateur de « Pourquoi nous vieillissons » de David Sinclair. Qui, quoi qu'on en dise, et même s'il peut probablement à certains égards être controversé, a quand même ouvert, je trouve, une nouvelle expérience de pensée en partant du principe que le vieillissement pourrait être une maladie. C'est-à-dire que dans la biologie, on s'est toujours dit que le vieillissement était inhérent à la vie cellulaire, à la vie animale. Et lui s'est dit, mais si c'était pas le cas, si c'était une maladie, quelles en seraient les causes et comment est-ce qu'on pourrait les traiter? Je sais que c'est quelque chose qui t'a pas mal parlé et que tu suis toi-même son protocole, ou en tout cas en partie son protocole, celui qu'il expérimente sur lui-même, sur des groupes de tests, sur ses proches et sur sa famille, sur ses amis, qui à certains égards a montré des résultats complètement fous, tu vois, notamment des gens qui avaient des cheveux gris et puis ils sont redevenus noirs et pigmentés, même si on peut pas encore valider son postulat que on vivra bientôt jusque 130 ans. En tout cas, on peut s'apercevoir que des gens qui ont 80 ans et qui ont les cheveux blancs retrouvent des cheveux colorés. Enfin, c'est quand même assez dingue. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu comment est-ce que tu es rentré dans cet univers-là? Qu'est-ce que tu as mis en place et quels effets est-ce que tu as pu constater?
Ok, alors
c'est une vaste question. Hein.
On va brosser déjà. Je vais commencer peut-être par mon parcours, comment je suis arrivé là. Donc, comme tu le disais, moi je suis anesthésiste réanimateur. Ça c'est mon métier d'ailleurs que j'exerce tout le temps, à plein temps. J'ai plusieurs métiers, c'est ça l'avantage de faire du biohacking. Donc je suis anesthésiste réanimateur et en fait au cours de mon internat, je me suis beaucoup intéressé à la santé corps-esprit. C'est ce qui m'a conduit à me former à l'hypnose et au coaching, deux disciplines que j'enseigne. Et en fait, je me suis dit, ok, donc la médecine, je dirais allopathique classique, est excellente pour soigner la maladie. Elle pêche pour tout ce qui est l'aspect mental, mais l'hypnose et le coaching m'amènent justement tout ce côté mental. Donc, j'étais très content. Et puis, je me suis dit qu'on pouvait aller encore un peu plus loin et j'ai commencé à découvrir en fait ce qu'on appelle en France la médecine anti-âge, mais le terme finalement est pas terrible puisque anti-âge est plutôt négatif comme positionnement. Donc je préfère parler d'une médecine de la longévité. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à découvrir cette médecine, je dirais vers 2014-2015. Et puis finalement, j'ai franchi le pas. J'ai passé un diplôme universitaire de médecine anti-âge, et puis je trouvais ça tellement génial que j'ai passé le deuxième diplôme de médecine anti-âge qui existe en France. Donc j'ai été le premier médecin titulaire des deux diplômes de médecine anti-âge en France. Et c'est après en me disant, on peut encore mêler tout ça, on peut encore mettre tout ce que j'ai appris au niveau du mental, du coaching, de l'hypnose, de la médecine anti-âge, de la médecine allopathique que je connais, pour faire un espèce de gros melting pot où on va plus chercher à soigner, on va même plus chercher à prolonger la vie, on va chercher à optimiser la vie. Et en fait, c'est ainsi que j'ai découvert que je faisais du biohacking sans le savoir. Et donc, c'est ce qui m'a conduit à écrire le premier livre en français sur le biohacking. Voilà comment je suis arrivé à ça. Donc forcément, comme beaucoup de personnes s'intéressent au biohacking ou à toutes ces techniques-là, j'ai voulu expérimenter sur moi-même, j'ai recherché des références. En France, il n'y a pas énormément de références. Peut-être que l'un des médecins les plus connus en France sur ce domaine, c'est Claude Dalle, qui a été un de mes enseignants, mais qui finalement, ça fait quand même un certain temps qu'il a pas vraiment travaillé sur le sujet. Il enseigne, bien sûr, mais en tout cas, j'ai pas vu de trucs très très neufs de sa part. Donc, je me suis tourné vers tout ce qui était anglo-saxon. Quand on se tourne vers les anglo-saxons, on retrouve différents noms. Tu as cité David Sinclair, sur lequel je reviendrai. Et ensuite, c'est vrai que moi, je dirais que je me situe beaucoup dans l'univers Peter Attia. C'est pas juste parce qu'on a le même coiffeur, mais j'aime énormément Peter Attia. Parce que justement, il est vraiment très, il est très très médecin. David Sinclair, je crois pas qu'il soit médecin. Je crois qu'il est professeur de biologie, mais je crois pas qu'il soit médecin. Donc c'est vrai que voilà, en tant que médecin, moi j'aime bien lire des choses en rapport avec, je dirais, ma langue natale, à savoir la médecine. C'est pour ça que je me suis beaucoup rapproché du travail de Peter Attia. Pour en venir à ce que tu disais, David Sinclair. David Sinclair, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui, comme tu le dis, a eu le mérite d'ouvrir les portes sur le possible. Alors, quand tu dis, considère que la vieillesse, le vieillissement serait une maladie, il n'est pas le premier à l'avoir dit. L'OMS a également eu tendance à considérer le vieillissement comme une maladie. Alors, parfois ils reviennent dessus, parfois ils le remettent. C'est pas d'une très grande clarté, parce que justement, tout ça, c'est encore un terrain un petit peu glissant. Et tout n'est pas complètement clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que David Sinclair, par l'étude des souris, il s'est rendu compte qu'on pouvait effectivement prolonger la vie par différents moyens. Lui a beaucoup, beaucoup mis en avant le NMN, hein, le nicotinamide mononucléotide, comme complément alimentaire. Le problème, c'est que ce complément a été interdit par la FDA, donc la Food and Drug Administration, parce que justement, les preuves manquaient. Et puis c'est vrai que d'autres personnes également très très à la pointe de la longévité, comme par exemple le docteur Brian Stanfield, ont beaucoup critiqué les travaux de David Sinclair. Donc c'est très difficile de considérer que le NMN serait la fontaine de jouvence, comme prétend Sinclair. Après, le problème, c'est que il utilise le NMN ainsi que beaucoup d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que c'est le NMN? Est-ce que c'est le reste? Est-ce que c'est l'association de tout ça? C'est très très compliqué de savoir. Actuellement, le traitement qui est le plus en vogue, parce que le NMN maintenant finalement s'est passé un petit peu de mode, ça va très très vite, hein, la mode, hein. On a parlé auprès de la fisétine, la quercétine, du resvératrol. On a cité aussi longtemps la metformine, hein, qui est un médicament antidiabétique. On a cité aussi la berbérine, qui est une plante qui régule la glycémie. Donc, il y a plein de choses qui sont testées actuellement. Ce qui excite beaucoup les médecins anti-âge, c'est la rapamycine, hein. Je suppose que tu t'es aussi intéressé sur ce domaine.
Immunosuppresseur, ouais.
Alors justement, c'est ça un peu qui est à la fois curieux et extraordinaire. C'est que typiquement, l'utilisation de la rapamycine en tant que traitement anti-âge, ou pour augmenter la durée de vie. C'est très exactement du biohacking, hein. Biohacking, hacker, donc pirater sa biologie. C'est-à-dire que l'idée du biohacking, c'est éventuellement d'utiliser des traitements ou des routines qui ont une certaine indication, mais de les transformer dans une autre indication. Donc, c'est le cas de la rapamycine. Comme tu dis, la rapamycine, sous le nom du sirolimus, est un anti-rejet. Donc, c'est un médicament qui est utilisé dans les greffes d'organes. En fait, à la base, c'est une molécule qui a été trouvée sur l'île de Pâques, hein, qui est appelée par ses habitants Rapa Nui. Donc, c'est pour ça que ça s'est appelé la rapamycine. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce médicament, effectivement, semblerait rallonger la vie des souris, du moins en longueur. Le plus intéressant, c'est que même s'il n'y a pas d'équivalent en français, les Américains, ils parlent de moins en moins du lifespan, c'est-à-dire lifespan, augmentation de la durée de vie, ils parlent plutôt du healthspan, c'est-à-dire augmentation de la durée de la santé. Et c'est un concept que je trouve beaucoup plus intéressant. J'en discutais justement avec Gabriel, tu parlais il y a peu de jours, et en disant que finalement, mourir à 80 ans ou à 87 ans, honnêtement, on s'en fiche, quoi. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est, je dirais, de mourir en bonne santé. Et c'est vraiment dans cette optique que moi, je fais tout ce travail autour de la longévité. Donc, pas tant chercher d'augmenter, j'aime bien cette phrase, même si elle est un peu, elle commence à être un peu galvaudée, mais l'idée, c'est d'ajouter de la vie aux années et pas des années à la vie.
J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validée par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite.
Ouais, je partage complètement cette vision. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que je dis dans le fait de aujourd'hui de suivre des bonnes habitudes de vie. Et je parle pas forcément de compléments alimentaires, etc., mais de prendre soin de sa nutrition, de son sommeil, de l'adapter en fonction de sa génétique. Tu vois, Peter Attia, notamment, il a parlé aux États-Unis de l'APOE et de la façon dont on pouvait moduler son alimentation en fonction. Je travaille justement sur une masterclass sur le sujet avec le docteur Georges Mouton dans le monde francophone, qui est un peu un père de file de la médecine fonctionnelle. Et un petit peu une version francophone de ce que fait Peter Attia. Mais et je trouve que l'enjeu derrière, bien sûr, la conséquence, ça peut être de vivre plus longtemps en bonne santé, mais on en tire les bénéfices dès aujourd'hui. Tu vois, moi qui ai vraiment connu ces deux états, celui où j'ai vraiment malmené mon corps avec des tas d'excès de drogue, d'alcool, de filles, de soirées, de manque de sommeil, de trop de travail, etc. Et puis celui que je suis aujourd'hui qui a tout optimisé, j'ai l'impression de m'épanouir à 200% de mon potentiel et je suis capable de 100 fois plus de choses, je suis plus épanoui, plus heureux, j'ai plus de créativité, de productivité, d'énergie. Enfin, et donc en fait, on en tire les bénéfices dès aujourd'hui. Et donc je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est ça d'abord qui doit nous driver. Et si
Bien
en
sûr.
plus ça nous permet de vivre plus longtemps, c'est super. Justement, on est parti directement sur la voie médicamenteuse, donc justement sur ces effets de mode dont tu parlais. Peut-être qu'on pourrait déjà commencer par les principes même de l'hormèse, que sont
Oui.
l'exposition au froid, le
Alors,
jeûne,
tout à
etc.,
fait.
qui ont tendance à stimuler les tyrosines. Or, la plupart des, enfin, en tout cas, la voie d'action de beaucoup de ces compléments, c'est de favoriser justement la santé des sirtuines et par des raccourcis. Tu vois, le biohacking, c'est ça aussi. Tu vois, il y a une forme de raccourci. On essaie d'utiliser l'intelligence de la technologie ou l'intelligence humaine pour gagner du temps sur des procédés que la nature avait déjà prévus et qu'on pourrait activer par certaines habitudes de vie. Est-ce que tu en utilises certaines? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus?
Oui, alors je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai que ça m'amuse toujours parce qu'à partir du moment où je discute de longévité avec des personnes, que ce soit des patients ou des personnes intéressées par le sujet, très facilement, comme je suis médecin, on va me parler des médicaments, on va me parler d'un traitement. Voilà, comme s'il fallait absolument guérir le mal par, si ça se trouve, peut-être même par un autre mal, que sais-je. Alors que, comme tu le dis très bien, finalement, ces médicaments ne font qu'activer des fonctionnements cellulaires qui existent. C'est-à-dire les sirtuines, il y a aussi le système mTOR, l'autophagie, etc. Et finalement, On se demande quel est l'intérêt de prendre un traitement pour activer un phénomène naturel alors qu'on peut l'activer par une routine, par un mode de vie. Et c'est vraiment ça qui est essentiel. Moi, j'explique toujours que le biohacking, la longévité, c'est vraiment le principe de Pareto. C'est le fameux loi du 80-20. En fait, avoir un bon mode de vie, c'est 20% d'effort, mais c'est 80% du résultat. Après, OK, les compléments alimentaires vont peut-être nous aider à aller au-delà. Mais si je mange tous les midis de la junk food et qu'à côté de ça, je prends de la rapamycine, du resveratrol, du NMN, etc., c'est un non-sens. C'est-à-dire que d'un côté, je vais abîmer et de l'autre côté, je fais en sorte, ou du moins j'ai la croyance, de guérir quelque chose. Donc ça a totalement, c'est totalement infondé. Comme tu le dis très bien, la base, c'est toutes les choses très très naturelles. Alors, quand je dis ça, j'en constate à la fois les forces, mais également les limites. C'est-à-dire que le biohacking ou la médecine de la longévité, bien évidemment, ça ne se limite pas juste à bien manger, bien dormir, pas stresser, etc. Néanmoins, c'est la base. Donc, tu parlais effectivement de l'hormèse. L'hormèse, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de provoquer un stress modéré et raisonnable pour notre corps, pour l'obliger à aller plus loin. En fait, il faut quand même bien être conscient que notre corps, et ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps, il est à 99,9% identique à nos ancêtres cro-magnons. Alors, je dis pas qu'il faut faire un retour aux temps anciens, jeter toutes nos technologies qui pourtant nous permet quand même de communiquer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on se rapproche du mode de vie de nos ancêtres, plus on a un mode de vie qui finalement nous permet de survivre. L'obsession de nos ancêtres, c'était la survie. Et ça marchait bien. A priori, je dis bien a priori, les Cro-Magnons étaient plus forts, plus endurants que nous. Qui maintenant serait capable d'aller chasser avec une lance, d'aller courir le gibier? Mais je pense que personne actuellement dans les pays occidentaux ne serait capable de ça. Donc c'est vraiment intéressant de se rapprocher de ce modèle. En même temps, comme je disais bien, j'en constate toute la force, mais j'en constate aussi les limites, parce qu'il faut quand même être clair, les Cro-Magnons, tout comme nous, qu'est-ce qu'on est? On est en fait juste des primates. On est juste des primates, hein. Il faut quand même voir que normalement, je dis bien normalement, l'espérance de vie d'un être humain devrait être à peu près de 40 ans, pas plus. On dépasse cette espérance de vie parce que justement on a de la technologie, parce qu'on a des médicaments, parce qu'on a de l'hygiène, etc. Mais théoriquement, on devrait mourir à peu près à 40 ans. Les grands singes ont une espérance de vie dans la nature d'à peu près, je sais pas, 40, 45, 50 ans. Ils peuvent monter jusqu'à peut-être 60, 70 ans en captivité parce qu'ils sont nourris par l'homme et soignés par l'homme. Mais dans la nature, ils s'arrêtent. Et je parle pas d'accident, je parle d'une mort naturelle. Donc théoriquement, on devrait s'arrêter vers 40-50 ans. C'est cette prise de conscience de notre mode de vie et éventuellement après l'utilisation de tout un tas de traitements qui nous permet d'aller au-delà. Mais naturellement, on devrait mourir à 40 ans.
Ok, mais ouais, ok. Non, mais
Oh,
je suis
t'as pas
d'accord
l'air
avec
d'accord.
toi. Si. Bah après, tu vois, je trouve que clairement déjà, on a tendance à oublier qu'on est des animaux et le fait de prendre conscience de ça peut nous permettre de redéfinir, ou en tout cas, de se questionner sur beaucoup de nos habitudes de vie, de leur sens et de la façon dont elles peuvent être métaboliquement insultantes.
Bien
Après,
sûr.
l'espérance de vie. Je sais pas, j'avais lu des études aussi qui disaient qu'effectivement l'espérance de vie à l'ère du paléo elle était faible parce qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile
Tout à
et
fait.
de mamans en accouchant, mais que si on enlevait les risques d'infection, de jambes coupées, de se faire bouffer par un tigre à dents de sable et comment dire et d'accouchement, la longévité était plutôt importante et proche de celle qu'on observe aujourd'hui
Ah
sans
oui.
maladie de type cancer, etc.
Ah, tout à fait. Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. C'est quand je dis d'une espérance de vie de 40 ans, c'est d'une manière relativement générale. Après, il faut quand même voir que ce qui a permis l'augmentation de l'espérance de vie à notre époque, c'est ne serait-ce que l'hygiène et l'accès à l'eau
L'hygiène,
courante.
bien sûr.
Je veux dire, honnêtement, si on pouvait ramener des hommes du Cro-Magnon à notre époque, évidemment, on leur donnerait pas des hamburgers, mais si on pouvait leur apprendre ne serait-ce que l'hygiène et leur donner de l'eau potable, oui, je suis absolument certain qu'ils obtiendraient un niveau d'espérance de vie bien supérieur, c'est évident.
On a évoqué le mot sirtuin. Est-ce que tu pourrais, t'inquiète pas, après je t'emmènerai sur mTOR, MPK, etc. J'ai des petites questions assez intéressantes, en tout cas des mises en perspective que je trouve assez intéressantes sur le sujet. Mais commençons par les sirtuins. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, comment on les stimule?
Alors, ouais, là, tu me lances sur des sujets assez précis. Non, je vais rester relativement simple. De toute façon, tout ce qui est, je pense que c'est pas la peine de chercher des trucs hyper compliqués. Il faut savoir que de toute façon, tout ce qui est les systèmes sirtuin, mTOR, AMPK, c'est de toute façon des systèmes métaboliques qui sont liés à l'âge. Après, le problème de toutes ces choses-là, c'est que on observe des choses in vitro. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment on passe ça in vivo. Parce que finalement, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu citais les éléments naturels. Comme notre routine, moins stressée, bien manger, etc. C'est ça qui est vraiment intéressant. Le problème de toutes ces études, c'est que c'est fait sur des modèles animaux et qu'on n'a pas vraiment beaucoup de recul sur l'âge, enfin sur l'âge de l'être humain. Donc, moi, je suis toujours un peu embêté par toutes ces recherches hyper précises qui, je trouve, excite beaucoup les biologistes, mais moi je suis un médecin, je suis très terre à terre, quoi. La question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on en fait, parce que il y a des compléments alimentaires qui vont modifier l'activité du sirtuin. Ok, il y a des compléments alimentaires qui ont des propriétés ce qu'on appelle sénolytiques, c'est-à-dire de diminuer les cellules sénescentes. Il y a des compléments alimentaires où on va chercher à augmenter le métabolisme cellulaire, la MPK, etc. Il y a des compléments alimentaires ou des modes de vie qui vont activer mTOR, donc qui est un système qui permet le métabolisme et la nutrition cellulaire. Mais en fait, la question toujours que j'aime bien poser, parce que je discute parfois avec des gens qui sont vraiment dans ces sphères-là, mais je dis, mais ok, on en fait quoi maintenant?
Ouais. Ouais, non, clairement. Et ça rejoint un petit peu ce sur quoi je voulais t'emmener par rapport à MPK et mTOR. T'inquiète pas, on va pas rentrer dans les détails biochimiques.
Ah non, mais moi je suis.
Mais c'est plus d'un point de vue philosophique, tu vois. Moi, je vois AMPK comme une. Donc, je l'explique hein, pour les auditeurs, mais comme une voie de la survie. Tu vois, c'est une voie qui s'active plutôt en état de jeûne, etc., oui. Qui va plutôt préserver les ressources.
AMPK, ou l'autophagie, toutes ces choses-là.
Ouais, après moi en même temps, je vois plutôt justement comme une phase anabolique de développement musculaire, etc., plutôt de croissance. Et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stratégies liées à l'allongement de la durée de vie, et notamment ce qu'on observe aussi dans les zones bleues, etc., qui ont pour but d'activer AMPK, donc d'activer ces modes de survie, et quelque part qui nous permettent certes de vivre longtemps, mais lentement. Lentement, dans le sens où on est toujours un peu en mode survie, on développe pas trop de muscles, on mange pas trop de protéines, du coup on a peut-être un peu moins de vitalité, on fait peut-être un peu moins de sport. Tu regardes dans les zones bleues, tu observes la façon dont ils vivent, il y a des choses qui sont très intéressantes, comme le fait qu'ils passent une heure et demie à manger. Alors certes, ils boivent un petit peu de vin, mais ils ont des contacts sociaux très très constant, un niveau d'activité physique faible mais tout au long de la journée, mais en même temps c'est pas des athlètes de haut niveau, tu vois. J'ai l'impression que quelque part le fait d'optimiser la durée de vie s'oppose au fait de vivre avec intensité. Qu'est-ce que t'en penses?
Ça, c'est une question hyper intéressante, parce qu'en fait le fait de vivre avec intensité, qu'on le veuille ou non, ça va finir par produire un stress chronique. Et on sait que le stress chronique, c'est pas bon pour la longévité. Alors, c'est là où, quand tout à l'heure je te disais, oui, mais maintenant on en fait quoi? Le problème, c'est qu'à partir du moment où on étudie qu'un paramètre sur une donnée, on va avoir qu'un seul bout du système. Et moi, j'insiste vraiment toujours sur le fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? En l'occurrence, je vais dire pour le patient, parce que en tant que médecin, c'est ça qui va m'intéresser. Qu'est-ce que je fais maintenant concrètement pour le patient? Ok, si je fais ça, je vais activer la MPK, il va être en mode survie. Ouais, mais enfin, mode survie, c'est bien gentil. L'hormèse, à partir du moment où c'est aigu, c'est un mode survie, intense et immédiat, c'est cool. Le problème, c'est que si on s'amuse à faire ça sur le long terme, on développe un stress chronique. Le stress chronique, c'est absolument pas cool. On sait très bien que ça raccourcit les télomères, bon, en sachant que les télomères, c'est pas forcément le meilleur marqueur du vieillissement, mais en tout cas, voilà. On sait également que ça va jouer sur tout un tas de marqueurs du vieillissement. Donc, je trouve que le problème de ça, c'est que on voit que juste avec un petit bout de la lorgnette et on voit pas l'être dans sa globalité. C'est pour ça que quand tout à l'heure, je parlais du fait que je m'intéressais à tout ce qui était corps-esprit, je trouve qu'il y a toute une partie de l'être qu'on ne voit pas en faisant ça.
Ouais, t'as raison, c'est une vision hyper réductionniste d'ailleurs qui a eu pour compte dans la nutrition où on a réduit les aliments à leur macro micronutriments et puis en se disant bah tiens je mange ça pour avoir tel micronutriment et puis tiens pourquoi pas les prendre en complément alimentaire plutôt que de les avoir avec l'aliment, sauf que on a complètement exclu de l'équation toute la matrice cellulaire dans laquelle était gardé tous ces composés et puis surtout leur effet synergique parfaitement dosé le fait que le corps il reconnaisse tu vois quand il mange je sais pas une noix par exemple qui est telle quantité de potassium par rapport au magnésium par rapport à un machin et que si derrière tu prends des pilules concentrées en plus potentiellement avec des molécules de synthèse donc chimiques eh ben le corps les reconnaît pas du tout de la même façon donc c'est clair que
Et
cette vision réductionniste.
l'absorption sera absolument pas la même, hein. De toute façon, non, non, je suis 100% d'accord avec toi. Et vraiment, c'est pour ça que je reviens. C'est pas pour éluder les questions, mais c'est pour ça que, si tu veux, plutôt que de prendre les systèmes cellulaires sirtuine, AMPK, mTOR, autophagie, etc., en séparé, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant justement de voir toute cette globalité. Je rejoins tout à fait ce que tu dis, parce qu'à la rigueur, on pourrait très bien finalement se nourrir tous les jours de poudre de protéines, d'huile MCT, d'un peu d'oméga-3. On pourrait faire tout ça. En fait, ce que je trouve quand même dommage, c'est que parfois, justement, cette quête, cette recherche de longévité, nous éloigne du rationnel. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec un gars qui me disait, moi je suis un grand fan de biohacking. Je dis, ah ben cool, on va pouvoir discuter. Mais le gars, il était limite psychopathe, hein. Il était en mode Brian
Brian
Johnson,
Johnson?
quoi. Ouais, enfin, malheureusement, je n'ai pas discuté avec lui, mais le gars, il était en mode Brian Johnson. Brian Johnson, il a une routine de malade. Je veux dire, c'est quoi sa vie?
Ça me fait pas rêver non plus.
Non, ça fait pas rêver. Bon, je veux dire. Moi, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai mon boulot. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est tout l'aspect. Comment arriver à conjuguer ben, la protection de mes circuits, de mes mTOR, de mon autophagie, de mon MPK, etc., avec une vie de tous les jours. Et l'idée, c'est pas non plus d'aller en psychopato en disant ah, attends, j'ai pris une macro en trop, ça va pas, je vais. Enfin, voilà, c'est. La question, c'est comment faire pour créer un système, pardon, qui soit viable et éthique. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ce que fait Brian Johnson, déjà, et très peu de personnes sont capables de le faire, je ne sais pas depuis combien de temps exactement il le fait, ça fait, à mon avis, moins de 5 ans, je ne sais pas où ce qu'il en sera dans 5 ans, lui. Alors qu'il y a, y a, y a des choses dont on peut s'inspirer dans ce qu'il fait, qui sont simples et qui peuvent être par exemple utiles. Un truc tout bête. Brian Johnson, il s'est fait perfuser le sang de son fils, par exemple. Mais plutôt que de faire ça, allez faire ce que je suis allé faire la semaine dernière, allez au don du sang, donnez votre sang, vous serez utile aux autres et vous allez forcer votre corps à rajouter à retourner et à refaire un sang nouveau. J'ai donné aussi mon plasma. Le plasma, à la fois, mon plasma, il est plein de bonnes protéines, mais il est aussi plein de déchets. Et ben, en allant donner mon plasma, j'ai balancé 500 cc de mon plasma et je l'ai remplacé par 500 cc de plasma tout nouveau, tout beau, tout propre, avec les bonnes choses que j'ai mangées dessus. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est comment faire pour appliquer toutes ces connaissances dans un quotidien qui vraiment peut être réellement utile et pragmatique. Et que ce soit pas juste à la limite de la folie ou du sectarisme.
Ouais, et puis même peut-être une fuite infinie liée à notre peur de la mort et au fait qu'on a tendance à caser les personnes âgées dans des coins et puis à les oublier après. Et enfin, je pense qu'on a un rapport à la mort qui est compliqué en Occident beaucoup plus qu'en Orient, et que c'est de là aussi que vient cette espèce d'angoisse, surtout dans une société où il y a une forme de défis de plus en plus importants de la religion. Et là, je veux pas du tout rentrer dans le débat de est-ce qu'il faut croire ou pas. Mais forcément, tu vois, c'est une question angoissante pour l'homme que d'appréhender sa propre finitude, et le rêve de pouvoir la contrer est forcément excitante. Mais effectivement, si t'en tombes à l'extrême et à vivre dans une boîte complètement fermée du monde, comme Rian Johnson, qui au final est un rat de laboratoire dans sa propre cage, c'est horrible comme vie. Tu vois, moi, je suis super content d'aller faire de l'alpinisme. J'ai découvert ça il y a 3 ans et ça a changé ma vie d'une certaine façon, parce que j'adore ça. Ça m'a permis d'avoir aussi des grosses réalisations personnelles en termes de réflexion, etc. Et pour autant, je sais que c'est dangereux et que je pourrais en mourir. Mais voilà, au bout d'un moment, je pense qu'on a la chance inestimable d'être incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie. Et qu'il faut y jouer. Après, pour autant, et d'ailleurs, c'est là où j'adore ton approche, parce que t'es capable à la fois d'avoir la sagesse du Cro-Magnon et en même temps la curiosité de la technologie moderne, et de réussir à trouver l'équilibre entre les deux, où souvent je trouve que le biohacking s'oppose à la nature, tu vois. Par exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là de la lumière rouge, qui montre plein d'effets, qui est un petit peu l'outil phare des biohackers, mais qui en réalité t'apporte la même chose que si t'allais t'exposer une demi-heure le soir au coucher du soleil nu, et puis le matin pareil, tu vois. Et c'est plus un raccourci, parce qu'on a une vie qui est complètement décorrélée de notre environnement, qu'une réelle innovation. Donc je suis vraiment intéressé de savoir comment est-ce que toi, t'as réussi à amener cet équilibre dans ta vie, sans tomber justement dans le réductionnisme, dans le dogmatisme, mais en gardant cette espèce d'équilibre entre le meilleur des deux mondes.
Alors je te dirais, tu sais, c'est marrant parce que dans le monde de la médecine dans lequel j'évolue, tu vois, j'ai 51 ans, donc je suis à la fois jeune et vieux, si tu veux. En tant que médecin, je suis relativement jeune, parce que mes confrères ont 60, 70, voire même 80 ans, donc je suis un peu figure d'un petit jeune à la clinique. Et pourtant, quand je fréquente tout ce milieu auquel tu appartiens, où je suis entouré de trentenaires, je parais pour être un peu le vieux sage. Alors c'est assez amusant. Pour t'expliquer, parce que moi j'ai des notifications, hop, j'éteins. Pour t'expliquer ma vision, je vais te parler juste un peu de ma famille, comme ça te permettra de comprendre. Mes deux parents sont morts à peu près, je ne serai pas l'âge exact, 83, 84 ans, ce qui est à la fois jeune et vieux entre guillemets. Mon père avec on dirait qu'à eux deux, ils ont eu le catalogue des maladies chroniques de notre époque. Ils ont eu tous les tueurs de notre époque. Mon père, surpoids, diabète, cholestérol, hypertension, leucémie et cancer. Okay. Tout le catalogue. Ma mère, maladie de Alzheimer, hypothyroïdie, donc maladie auto-immune, et arthrose et polyarthrite. Donc, le catalogue. Donc, et hypothyroïdie, oui. Donc, excuse-moi, je suis désolé, j'ai tout un tas de notifications, c'est assez insupportable, je ne sais même pas comment arrêter tout ça. Donc voilà, toujours est-il que, je suis désolé, je sais pas comment je peux faire. Tu vois, c'est ça c'est le côté, ça c'est le côté papille, tu vois. Hop. Voilà. Donc, tu vois, mes parents avaient vraiment tout ce qui était le catalogue de ce qu'on peut appeler les tueurs, à savoir toutes les maladies chroniques qui tuent les personnes actuellement. De toute façon, a priori, on va tous mourir d'un de ces tueurs. Les tueurs, c'est simple, c'est les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, type obésité ou diabète, et les cancers. A priori, on meurt de ça à notre époque. Donc, si tu veux, ben, forcément, ça rend un peu philosophe. Qu'est-ce que je vois? Je vois que ma mère avait le corps qui tenait le coup, finalement, pour une femme de son âge, mais par contre, la tête était plus là. Maladie d'Alzheimer, elle ne me reconnaissait plus. Mon père, il avait toute sa tête, mais il était extrêmement gêné par le côté physique. Et donc, finalement, quand je vois ça, je me dis, OK, d'un côté, c'est la tête qui a lâché, de l'autre côté, c'est le corps qui a lâché. Donc, pour moi, Moi, à la rigueur, que je meure à 80 ans, 83 ans ou 90 ans, je m'en fous, ça va rien m'apporter. L'important, comme je disais tout à l'heure, c'est de partir en étant en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment le point le plus essentiel. Après, quand on a des enfants, et je sais que toi aussi, tu as des enfants, eh bien, on est un peu obligé aussi de faire les choses un petit peu comme les autres. Voilà, je vais mentir si je dis qu'il n'y a pas de Nutella à la maison. Je vais mentir si je dis que à la maison on mange que hyper sain. Non, à la maison il y a du Nutella, on n'en abuse pas, mais il y a du Nutella. À la maison on mange pas toujours bio. À la maison on mange de la viande rouge. Et je pense que l'idée c'est vraiment de conjuguer une vie où on va chercher au maximum à avoir un mode de vie sain, mais en même temps à pouvoir aller vers aussi du plaisir. C'est vrai que parfois, je vois par exemple un infirmier dans la clinique dans laquelle je travaille, le gars il est obèse, il picole, il bouffe tout et n'importe quoi, et lui dit très clairement, bon, il a pas loin de 60 ans, il dit ben si dans 2 ans je meurs, je m'en fiche parce que je veux avoir vécu. Donc je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ce message, de faire prendre conscience aux personnes qu'elles peuvent avoir une bonne vie, une bonne santé, mais tout en gardant quand même l'aspect plaisir. Comme je disais, à partir du moment où on est trop dans la contrainte, on va se créer un stress chronique qui, lui, va être, à mon avis, beaucoup plus délétère que le fait de mal manger.
Ouais, c'est intéressant. Après, il y a deux choses que ça m'évoque. La première, c'est que je pense que le fait de bien manger est pas forcément synonyme de mal manger, c'est-à-dire en termes de plaisir. Moi, je mange bien, tu vois, la plupart du temps bio, etc., que des trucs que je prépare moi-même. Et c'est rempli de couleurs, c'est rempli de saveurs, et on se régale, tu vois. Et donc, j'achète pas de produits industriels, pas de gâteaux, pas de trucs comme ça. Mais si ma fille ou ma femme ont envie d'en manger un, bah, elle le prépare, et en plus, ça fait une activité qu'elles font ensemble. Et donc, ça répond aussi à ce côté plaisir, mais à ce côté social aussi, tu vois. Et donc, je trouve que trop souvent, l'alimentation de qualité est dans la tête de beaucoup de personnes synonyme d'alimentation morne.
Ah
Tu vois, peu excitante, alors que moi, c'est pas du tout la vision que j'en ai, et franchement, on se régale. Et l'autre point, tu disais de temps en temps, on mange de la viande rouge. C'est vrai que la viande rouge a été beaucoup critiquée, notamment parce qu'elle était associée au cancer du côlon, etc.
oui,
Après, ceci étant,
au réchauffement climatique
oui,
aussi.
bon. Et après, aux États-Unis, tu vois, tu as eu un peu l'essor du régime carnivore qui a remis en perspective tout ça. Et c'est là où on s'aperçoit aussi que le réductionnisme est pas la bonne voie, que tout est très très individuel. Et donc moi, je consomme de la viande rouge. Je pense que d'ailleurs, les acides aminés sont à la base des précurseurs aussi du glutathion, qui est le plus puissant antioxydant du corps. Or, tu parlais de stress chronique, et ben l'impact du stress, c'est surtout les radicaux libres qui peuvent être l'une des attaques les plus prégnantes sur notre ADN et donc sur le vieillissement. Et donc, qu'est-ce qui s'y oppose? Les antioxydants, notamment le glutathion, qui est le plus puissant du corps et qui est créé à la base d'acides aminés. Donc, ça remet en perspective le fait de manger, de consommer des protéines. Et par ailleurs, par contre, et toutes les études d'ailleurs qui ont été faites sur la viande rouge, il faut quand même pas oublier que déjà elles ont été faites sur des échantillons larges, donc dedans il y avait des APO 4, 3, 2, donc des gens qui étaient plus ou moins bien adaptés selon moi. Et par ailleurs, avec de la viande potentiellement de mauvaise qualité, industrielle, élevée
Les
avec
hormones.
Des antibiotiques, des hormones de croissance, etc. Et on va me répondre, ouais, mais manger de la viande bio, ça coûte cher, etc. Ben, je pense qu'il y a deux avantages à ça. Le premier, c'est que comme elle coûte cher, eh ben ça régule naturellement sa consommation. C'est pas normal qu'on ait accès à de la viande aussi peu chère dans les magasins quelque part. Et la seconde chose, c'est que c'est peut-être aussi l'occasion de découvrir d'autres parties qui par ailleurs sont d'une densité nutritionnelle folle, qui sont les abats. Et
Les abats.
donc moi, j'en consomme beaucoup. J'ai converti ma femme, alors que à la base, ma famille m'a pas appris à en manger. Donc c'est moi qui ai décidé d'aller vers ça tout seul. Et donc, au début, j'ai commencé par du foie, des choses comme ça. Bon, ma femme a pas trop aimé le foie. Mais il y a d'autres abats qui sont hyper accessibles en fait en termes de goût. C'est juste que on a une image qu'on s'en fait qui est complètement décorrélée de la réalité ou de leur goût. Et donc, je prendrais pour exemple le cœur de bœuf ou la joue de bœuf qui préparé en bœuf bourguignon. Tu ne vois pas
Oui.
la différence
Non,
avec n'importe quelle autre partie. Et tu paies
le bœuf.
ça. Et ouais, et tu paies ça, tu paies ça 8 euros le kilo, bio, élevé en plein air, qui a mangé de l'herbe, donc une viande riche en oméga 3, etc. Ça coûte rien. Moi, j'achète sur pour de bon en circuit court directement au producteur. Et tu fais ça en bœuf bourguignon. T'as même pas besoin de dire aux gens que c'est de la joue. Ça se voit pas. Et voilà. Et pareil, la langue de bœuf. Moi, j'en avais des souvenirs de langue de bœuf à l'école, où ça m'avait dégoûté, etc. J'ai voulu quand même réessayer. Et je l'ai préparé après un petit peu comme un roast beef, tu vois, dans le sens où je l'ai coupé très finement. J'ai mangé froide avec de l'huile d'olive et un peu de sel de Guérande, sans dire à ma femme que c'était la langue de bœuf. Elle a adoré, moi aussi. Et voilà. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un vrai frein psychologique lié aux abats qui est d'une part pas corrélé à la réalité du goût ou de la texture, qui par ailleurs a une réelle opportunité de manger de la viande de qualité pas chère. Parce que 8 euros le kilo pour de la viande bio, c'est juste imbattable, et qui en plus a une densité nutritionnelle incommensurablement plus importante que d'autres parties comme le muscle qu'on consomme allègrement parce que il ressemble pas à de la viande. Donc voilà, j'avais envie de faire ces petites parenthèses.
Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Je vais juste rajouter une couche par rapport à ce que tu disais. Moi, j'insiste vraiment sur ce que tu dis. Les abats, j'aime beaucoup ça. J'aime bien, même si c'est pas très très ragoûtant. Par contre, je pense qu'il faut vraiment insister sur le message que surtout par rapport au foie, il faut manger du foie bio. Enfin, faut vraiment faire en sorte de manger bio les abats, parce que voilà, le foie, c'est quand même là que tout se détoxifie. C'est quand même par là que l'animal détoxifie tous ses polluants. Donc, si on mange les polluants, c'est pas top. Après, je fais juste une petite parenthèse parce que tu as parlé du glutathion comme étant le meilleur antioxydant. Ça m'amuse beaucoup parce que c'est juste une petite parenthèse, mais il y a souvent cette idée de chercher quel est le meilleur antioxydant, comme si il fallait qu'il y ait une compète. Alors, moi, j'ai un prof, le professeur Castronovo, qui disait que pour lui, le meilleur antioxydant, c'était l'acide arachidonique, je crois. L'autre qui dit que c'était un autre truc, un autre qui dit que c'en était un autre. Il y a des publications qui disent que le meilleur antioxydant, ça serait la mélatonine. Je voudrais juste faire un point sur ce qu'on appelle antioxydant, parce que ça fait partie des points où on a l'impression que il faut que je prenne mon antioxydant. Il faut quand même voir que un antioxydant, c'est effectivement, comme tu le dis, un antioxydant qui est là pour neutraliser les radicaux libres, mais il faut voir aussi que notre corps, c'est pas quelque chose qui va que dans un sens. Ça, c'est, je dirais presque, c'est la sagesse de la médecine orientale, hein. J'ai pas la prétention d'être un grand pro de la médecine orientale, mais la médecine orientale cherche toujours à faire l'équilibre. Et trop prendre d'antioxydants, eh ben, c'est pas bon. Parce que les oxydants, on en a besoin. Les oxydants, c'est aussi un système qui va permettre de tuer, finalement, de tuer les cellules malades. Parce que ça, c'est une expérience qui a été faite, notamment dans le cas de cancer. On avait donné à des personnes qui avaient un cancer, je crois que c'était du poumon de mémoire, des bêta-carotènes, donc ce sont des antioxydants, en se disant « c'est génial, ça va les aider à guérir du cancer ». Et en fait, on a très très vite arrêté l'étude parce qu'on s'est rendu compte que les patients qui avaient un cancer et chez qui on donnait justement beaucoup d'antioxydants, ils avaient tendance à mourir plus vite. Voilà, c'était juste une petite touche par rapport au système antioxydant. Avec prudence par rapport à ces molécules, le glutathion reste un excellent antioxydant et surtout un très très bon détoxifiant. Qu'on peut prendre éventuellement via des protéines, puisque le procureur, c'est l'acétylcystéine qu'on trouve dans l'alimentation, ou qu'on peut prendre en tant que complément alimentaire. Voilà, c'est une petite parenthèse, histoire de faire mon médecin issu de l'université, tu vois.
Tu fais bien de le faire. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'hormèse. Et donc, dans les voies de l'hormèse, il y a notamment le sport, l'exercice physique. Et donc, le principe hormétique, le stress hormétique lié à l'activité physique vient justement en partie de cette production de radicaux libres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est aperçu qu'en réalité, même si l'exposition au froid est quelque chose de très intéressant d'un point de vue hormétique également, mais pour des raisons différentes, bien, le fait de s'exposer au froid après une séance de sport a amoindrissé les adaptations, parce que juste en partie probablement parce que elles viennent s'opposer à ce stress oxydatif et donc elles poussent pas le corps à s'adapter en conséquence. Donc tu fais bien de préciser et de rappeler encore une fois que tout est homéostasie.
Ben, en fait, si tu veux, c'est c'est là, c'est un peu dans la continuité de tout ce qu'on discutait tout à l'heure, tu sais, où même si j'ai énormément de respect pour tout ce que fait David Sinclair, on n'est pas des souris de laboratoire. Et quand on regarde juste un paramètre, on n'a pas le panel total. C'est pour ça qu'à la rigueur, j'aime bien les études qui sont faites sur les zones bleues, parce que même si elles sont imparfaites, elles prennent vraiment en compte l'être humain. Et là, c'est super, je trouve ça vraiment plus intéressant d'avoir l'être humain dans son environnement. Parce que là encore, comme je dis, on n'est pas des souris de laboratoire. Notre fonctionnement, bon, il est pas tellement éloigné des souris, parce que finalement, on est des mammifères. Mais je pense que c'est vraiment important d'insister sur l'aspect social. Tu en parlais d'ailleurs tout à l'heure que cet aspect social était vraiment extrêmement intéressant dans les zones bleues. D'ailleurs, quand on interroge des personnes en fin de vie, la plupart de leurs regrets concernent les rapports humains. C'est pas d'avoir trop mangé, mal mangé, de pas être allé au bout d'une série Netflix ou que sais-je. Non, en général, c'est je n'ai pas pris assez de temps pour telle ou telle personne.
Et tu fais bien quand même de préciser, d'observer les gens dans les zones bleues, dans leur environnement, parce que l'environnement est quand même assez constituant aussi de leur héritage génétique, de leur épigénétique, etc. On s'aperçoit par exemple que les Japonais qui mangent énormément de riz ont des capacités enzymatiques, etc., et notamment une production d'amylase dans la bouche qui est plus importante que des Occidentaux qui en mangent moins. Donc il y a quand même des adaptations qui sont liées à la façon dont vivaient nos ancêtres et à l'endroit où on est né, à la façon dont on a vécu et à notre environnement.
Alors ça me fait sourire ce que tu dis là parce que c'est vraiment le problème, je trouve, d'aller chercher loin des modes de vie en se disant, tiens, je vais prendre ce qui est réussi chez les autres. Tu l'as très bien dit. Les maladies cardiovasculaires, pour ainsi dire, n'existaient pas au Japon jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En gros. Pourquoi? Ben parce qu'ils avaient un mode de vie où justement ils mangeaient du poisson cru, donc bourré d'oméga-3, parce qu'ils mangeaient du riz, parce que déjà ils ne mangeaient pas énormément, et c'est en découvrant le mode de vie à l'occidental qu'ils ont commencé à avoir des maladies cardiovasculaires. De la même façon, comme tu dis, effectivement, le riz, finalement, le riz blanc à la mode japonaise peut être relativement indigeste pour beaucoup d'occidentaux. Donc c'est vraiment important de voir vraiment ce qui correspond à notre environnement, à notre génétique. Parce que faut quand même bien être conscient que on veut aller chercher chez les autres des modes de vie, alors que nous, on a un mode de vie qui est hérité quasiment de milliers, voire de dizaines de milliers d'années. Et on ne peut pas comme ça, à brûle-pourpoint, aller changer de mode de vie. Par exemple, combien de personnes seraient capables en Occident de vivre uniquement en mangeant du poisson cru et de la graisse de phoque? Personne. Personne. Et pourtant, les Inuits, ils font ça depuis tout le temps.
Bien sûr.
Et ils sont complètement adaptés. Ils sont complètement adaptés à ce mode de vie. C'est vraiment important. Tu as cité le mot épigénétique. Je pense que c'est vraiment une clé très très profonde. C'est-à-dire que l'épigénétique, ça, bon, ça peut avoir des effets sur la durée d'une vie d'un seul être humain, mais globalement, l'épigénétique, c'est quelque chose qui nous influence de génération en génération.
Bien sûr. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a pas mal abordé beaucoup de questions, on va dire, de l'ordre de la biologie, du fonctionnement du corps dans cette première partie de podcast. J'ai pas oublié ma question sur ton protocole et sur ce que tu faisais toi. Et à chaque fois, t'as botté en touche. Donc, on va la garder pour un petit peu plus tard, mais j'ai
Ah,
quand
mais
même
je
envie de
peux,
savoir
non,
ce que
je
toi tu
peux.
fais.
Non,
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 je peux y aller, je
tu
peux
me
y aller.
diras après. Tu me le diras après. Je propose qu'on parte maintenant dans le domaine de la conscience.
Ouais.
On a parlé de l'importance des rapports humains, tu as parlé de l'hypnose, du stress chronique aussi, parce que mine de rien, on a parlé de l'hormèse, mais l'hormèse, il faut pas oublier que c'est un stress, certes, qui potentiellement peut mener à des adaptations positives, mais qui est un stress néanmoins. Et on a tendance à différencier le bon stress du mauvais stress, à considérer que le stress, c'est plutôt lié à des choses négatives et à pas comprendre que le stress, il peut être aussi positif et que le sport, par exemple, est aussi une forme de stress, que le fait de faire quelque chose d'intellectuellement intense peut être aussi une forme de stress. Et donc, comment est-ce que face à toutes ces et d'ailleurs il y a même des stress dont on n'a pas conscience, des agresseurs dont on n'a pas conscience, qui sont les polluants auditifs, environnementaux, les ondes, les dans l'air, dans la nourriture qu'on mange, etc. Donc le stress, il est vraiment multifactoriel. Et tout à l'heure t'as dit, ok, un point important, c'est de pas tomber dans le stress chronique. Alors comment est-ce que toi tu fais, grâce notamment probablement aux outils que t'as pu développer ou comprendre grâce à l'hypnose. Je sais que tu t'es intéressé aussi à la respiration. Tu pratiques, bah, notamment, j'ai vu ça dans un webinaire, la respiration carrée. Comment est-ce que tu utilises un petit peu des outils, soit très naturels, dans le sens partager des moments avec les gens que t'aimes, ou bien des petits hacks, mais des hacks plutôt liés à l'esprit, pour manager cette homéostasie du stress, c'est-à-dire de pas être toujours en train de tirer la corde vers le haut, mais offrir à ton corps des moments de repos, de récupération, de calme, de détente.
Alors, je vais faire un petit peu un panel. Première chose, tu parlais de repos, de détente. C'est très important de bien considérer que le repos et la détente fait partie de l'action. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes justement qui veulent négliger leur sommeil ou qui veulent négliger le temps de qualité où ils peuvent se retrouver eux-mêmes en se disant c'est un peu une perte de temps. Ben non, c'est pas une perte de temps. Faut bien voir que c'est exactement comme un arc. Hein. La puissance de l'arc, elle vient de la détente. Elle vient pas du fait de tirer. C'est pas quand on tire avec de la force l'arc que la flèche ira loin. C'est quand on relâche et que tout part. C'est un premier point. Ensuite, il y a également un point sur lequel je voulais revenir. On parle beaucoup de lutte contre le stress. Combien on voit de formations de lutte contre le stress? Moi, je suis complètement débile. Lutter contre le stress, c'est comme de dire « Tiens, je vais m'entraîner à arrêter de respirer pour voir combien de temps je vais tenir. » On peut tenir peut-être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais il y a un moment où on va respirer. C'est exactement la même chose. On ne lutte pas contre le stress. On peut vivre avec, on peut essayer, faire en sorte de le domestiquer, de le dominer, idéalement de l'utiliser pour devenir plus fort. C'est le principe de l'hormèse, hein, on peut appeler l'hormèse l'antifragilité ou la résilience. Il y a différents termes. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de prendre conscience que ce stress, il n'est pas là comme étant un ennemi. Il est là dans notre biologie, dans notre esprit, comme étant un moyen de survie. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le voir. Alors, comment personnellement je fais pour lutter contre le stress? Et encore, je te dis bien le mot lutter, il vaut mieux le retirer, il vaut mieux dire comment je fais pour gérer le stress. Eh bien, ça va dépendre. C'est-à-dire que déjà, première chose, il faut le reconnaître. Accepter de se dire « Ah, ok, là, je sens que je suis stressé. » Il y a tout un tas de techniques qui peuvent aider. Il va y avoir des techniques qui vont être, je dirais, actives, type par exemple PNL. Ça veut dire, ok, mon stress, je vais supposer que c'est une grosse boule de feu que je vais éteindre. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle l'utilisation, ces techniques de PNL, avec ce qu'on appelle les submodalités. Il y a d'autres techniques où on va plutôt aller rechercher dans le corps ce que l'on ressent, et on va faire en sorte de ressentir ce que l'on ressent et de percevoir les petits changements qui opèrent. Moi, je n'ai pas une technique globale par rapport à la gestion du stress. Je vois un petit peu ce qui va arriver. Il y a des moments où, effectivement, ce que je vais faire, ça va être quelque chose de très, très méditatif. Et ça, ok, ça marche, parfois. Et puis, parfois, ça va pas marcher. Alors, je vais plutôt aller faire de la respiration. Moi, j'aime bien, effectivement, prendre mon application RespireLax et puis faire un petit exercice de respiration. Ou bien éventuellement faire la respiration carrée, encore que pour moi, la respiration carrée, je préfère l'utiliser avant de faire un travail, je dirais pour augmenter le focus, plutôt que par rapport à la gestion du stress. D'ailleurs, la respiration carrée, elle est beaucoup plus diffusée aux États-Unis en tant que moyen d'entrer dans le flow, plus que par rapport à l'aspect anti-stress. Donc, voilà, ça c'est différentes méthodes que je vais utiliser. Après, je dirais que les techniques qui me semblent les plus pertinentes, c'est celles où on va toujours passer par le corps. Parce que le problème des personnes qui ressentent du stress, c'est qu'elles vont uniquement mentaliser la chose en disant « j'ai du stress dans la tête », etc. Et moi, je pense que c'est très important de comprendre que même si on ne sait pas quel est l'œuf, quelle est la poule, le stress, c'est quelque chose de corporel. Alors, est-ce que c'est une réaction de notre corps qui va influencer notre esprit, qui nous fait ressentir un stress, ou est-ce que c'est une réaction de l'esprit qui va réagir sur le corps pour lui faire ressentir le stress? Difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le stress, c'est une problématique corps-esprit. Et donc, forcément, il vaut mieux chercher à utiliser des techniques corps-esprit. Moi, j'aime beaucoup l'aspect de ressentir dans le corps ce qu'on ressent et de le laisser évoluer, de, comme je dis, comme si on était spectateur de notre propre corps et de voir comment la chose évolue. Et d'une manière assez étonnante, on se rend compte que les ressentis corporels se modifient et que quand les ressentis corporels se modifient, le mental se modifie. Voilà, ça c'est une technique en l'occurrence que j'ai appris sous le nom de Clean, coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives. Donc une approche qui a été développée entre autres par Alain Kayrol, donc grand nom de la PNL en France, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours.
C'est intéressant. Est-ce que tu utilises des outils de biofeedback pour objectiver tes niveaux de stress, notamment par exemple suivre ta HRV ou
Ma
bien
Gervais.
faire régulièrement des prélèvements sanguins et puis suivre les taux de certains facteurs, par exemple on a parlé du glutathion, etc., pour essayer d'objectiver un petit peu justement cet équilibre, ou bien t'es
Alors,
simplement dans le ressenti et la perception?
je dirais que je n'ai pas la prétention d'être un vieux routard de la chaux, mais c'est vrai que la cohérence cardiaque, moi j'ai commencé à m'y intéresser, je pense de mémoire, il y a 11 ou 12 ans. Donc à une époque où globalement personne ne connaissait cette technique. Donc c'est vrai qu'à force de l'avoir pratiquée, j'utilise plus forcément du biofeedback. Je l'utilisais beaucoup avec une tablette, hein, là où je m'étais formé, qui s'appelait Symbiophy. Hein. Je suis désolé, je fais une petite publicité
Tu
pour
peux, tu
cette
peux.
tablette qui est vraiment chouette. Mais c'est vrai que les études ont montré que quand on utilisait du biofeedback, c'était mieux. Mais en même temps, là où je trouve que la beauté de la cohérence cardiaque, c'est son aspect simple, qui fait que justement, on peut la pratiquer sans aucun matériel. Donc voilà, ça je trouve que c'est quelque chose qui est très bien. Le problème de la cohérence cardiaque, je pense que c'est que quand on est très stressé, que ce soit la cohérence cardiaque ou la méditation, je trouve que c'est des techniques qui sont très difficiles à mettre en place quand on a un stress aigu. Moi, c'est quelque chose auquel je suis confronté tous les jours. Moi, je suis anesthésiste. Globalement, quand quelqu'un se fait opérer, a priori, il va avoir peur de moi, ou du moins peur de ce que je vais lui faire. Parce que bon, faut être très clair. Moi, mon job, c'est de foutre quelqu'un dans le coma, de surveiller toutes ses fonctions vitales et de le sortir du coma. Parce que sans moi, il meurt. Je veux dire, je caricature, mais c'est la réalité. Donc oui, les gens, ils sont flippés de ce que je vais leur faire. Eh bien, si je fais comme beaucoup de mes collègues, chose que je trouve totalement débile, de dire à la personne détendez-vous, parce que c'est complètement con. Enfin, si tu en dis à quelqu'un détendez-vous, enfin, on peut pas se détendre à la demande. Et si je dis à la personne concentrez-vous sur votre respiration, et la personne est tellement flippée qu'elle va pas pouvoir le faire. Si je lui dis fermez les yeux, imaginez-vous sur une plage, elle va me dire mais attendez, qu'est-ce que vous me foutez, qu'est-ce que vous me racontez, une plage, c'est complètement débile. Le truc que je trouve le plus pertinent, c'est toujours de les remettre sur leur propre corps en leur disant ok, je comprends, vous êtes stressé. Surtout ne cherchez pas à vous détendre. Surtout ne cherchez pas à faire partir le stress. C'est normal que vous soyez stressé. Je vous demande juste de me dire où est-ce que vous sentez dans le corps que vous êtes stressé. Et là, à ce moment-là, je les fais focaliser sur ce ressenti du corps et je leur fais constater que le ressenti du corps, il modifie. Et quand ils me disent le ressenti du corps modifie, je leur dis, et votre stress, il en est où? Et toujours, ils me disent, ah bah oui, il y a quelque chose qui a changé.
Ça me fait penser à mon ami JB Bourgeois, qui est médecin urgentiste et qui s'est formé à l'hypnose de spectacle. Et donc je l'ai vu un soir faire une démonstration et donc hypnotiser tout le monde, leur faire faire des choses de fou, etc. Et je me décrochais la mâchoire tellement je trouvais ça incroyable. Et le lendemain, avec plus ou moins les mêmes techniques, un gars qui s'était fracturé la cheville. Tenter de l'induire. Alors, il n'a pas réussi à vraiment l'induire, mais il a quand même réussi à changer sa perception, l'endroit où sur lequel il focalisait, etc. Donc, à le détendre quand même assez fortement. Et puis, ça a eu un impact aussi hyper important sur les gens autour, parce que tu sais, les gens autour, sinon ils sont en panique parce qu'ils voient quelqu'un souffrir et il y a probablement les neurones miroirs, etc., qui s'activent. Et donc, il y a une espèce de tension tout autour. Et le fait d'entendre sa voix douce, toutes les images, etc., qu'il utilisait, et ben en fait ça emmenait tous les autres gens autour, ça faisait on a vraiment senti la tension de l'endroit qui diminuait de deux crans, et je me suis dit putain c'est puissant quand même.
Oui, alors ça c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Moi j'ai commencé l'hypnose en 2006. Donc là encore, enfin je vais pas avoir la prétention de dire que je suis un dinosaure, mais c'est vrai que voilà, c'était une époque où en anesthésie on n'en parlait pas trop, mais j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose quand j'ai commencé mon internat en 1998. C'était en fait à l'époque j'avais vu un reportage à la télé sur Marie-Elisabeth Fémonville, qui est une professeure d'anesthésie belge qui pratiquait l'anesthésie au bloc opératoire, c'est elle un peu qui a lancé le truc. Et donc moi tout content, à l'époque j'étais interne à Lille, donc je m'étais inscrit à la formation de Marie-Elisabeth Fémonville à Liège. J'ai dit ouais génial, je vais aller me former à l'hypnose à Liège. J'en ai parlé à ma patronne et qui m'a dit globalement l'hypnose en anesthésie c'est de la merde quoi en fait. Et donc j'ai laissé tomber et donc j'y suis revenu qu'en 2006. Mais c'était vraiment impressionnant parce que entre cette époque où on me disait c'est de la merde et maintenant c'est incroyable parce que il y a énormément d'anesthésistes qui s'y mettent. Mais la plus grande partie de l'hypnose telle qu'elle est pratiquée effectivement en France, c'est une hypnose dite ericksonienne où on cherche à détendre le patient, à lui parler comme ça, à lui dire imaginez-vous sur une plage, etc. Et c'est vrai que moi c'est pas du tout ma came. Pour ça que ça m'amuse quand tu dis que ton ami s'est formé à l'hypnose de spectacle, parce que moi aussi je me suis formé à l'hypnose de spectacle.
Ouais, c'est fou.
Entre autres. Moi, je suis instructeur à la NGH, donc la National Guild of Hypnotists, qui est la plus grosse association mondiale d'hypnose et qui n'est pas du tout la tendance ericksonienne. C'est complètement une autre tendance que l'on appelle la tendance hellmanienne. Donc, c'est une autre manière de voir l'hypnose, où c'est une hypnose beaucoup plus directe, où on va vraiment aller induire rapidement, profondément, aller créer le changement. Et c'est vrai que c'est une hypnose qui m'amuse parce que parfois, je dis des choses et puis on me dit « mais ce que tu dis, c'est pas possible, ça peut pas marcher ». Et puis quand je fais la démonstration, je montre qu'en fait, il y a plein de choses qu'on nous dit sur l'hypnose qui sont en fait inexactes. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'hypnose sur la douleur, mais qui n'ont jamais foutu les pieds dans un bloc opératoire. Alors moi, l'hypnose au bloc opératoire, j'ai un peu touché.
Et justement, tu dis que t'es anesthésiste, mais anesthésiste réanimateur. Il y a le côté réanimateur, donc j'imagine que tu as été confronté à des cas difficiles, potentiellement à la mort. Et on en a parlé tout à l'heure de cette difficulté d'accepter notre propre finitude. Je vois que tu t'es intéressé à toute cette partie mentale, aux philosophies un peu plus orientales. Comment est-ce que ta perception justement de la mort, de ta propre mort, de celle de tes enfants, de celle de ceux que t'aimes, a évolué au cours du temps? Quel est ton rapport à la mort?
Alors, j'ai clairement pas peur de ma mort. À partir du moment où je meurs avant mes enfants, parce que je veux dire, c'est ça le truc, en fait. Globalement, on veut mourir avant nos enfants. Globalement, on veut mourir après nos parents et avant nos enfants. Globalement, c'est comme ça, je dirais, le fait naturel. Moi, j'ai absolument pas peur de la mort. Et d'ailleurs, je sais plus si c'est une chanson ou un poète qui dit mourir, la belle affaire, mais vieillir, non. Donc j'ai peur du vieillissement, j'ai peur de la déchéance, j'ai peur de la démence, j'ai peur de la limitation dans tout ce que je veux faire. Mais la mort, non, honnêtement, la mort me fait pas peur parce que la mort fait partie de la vie. Et finalement, et d'ailleurs ça fait partie des questionnements éthiques que pose David Sinclair dans son livre. La mort n'est-ce pas aussi une régulation déjà du taux de la population, après on peut partir dans tout un tas de réflexions, mais également un espèce de renouvellement aussi et d'avancée de la, je dirais de l'humanité dans les progrès qu'il peut faire. Chaque génération amène son lot de nouveautés. Bah, pour moi la mort fait partie de la vie. J'ai vraiment pas peur de la mort. Alors pour la petite histoire. Mon père était donc hospitalisé, donc il avait sa leucémie chronique qui a flambé en une semaine, et il a été hospitalisé un vendredi soir. Je l'ai amené à l'hôpital le vendredi soir, et le samedi de la semaine suivante, avec ma femme, on fêtait ce qu'on appelait nos 90 ans, c'est-à-dire qu'on avait 90 ans à nous deux. Et mon père est mort le samedi matin. J'ai reçu un appel à 6 heures de l'hôpital en me disant ben voilà, malheureusement votre père est décédé. Et c'était le jour où on devait faire notre fête. Et ben on a fait la fête. On a fait la fête parce que je pense que lui il aurait préféré aussi. Et puis d'ailleurs, quand on a fait la fête, j'ai dit à tout le monde, ben voilà, mon père nous a quittés ce matin. Et je dis, ben on fait la fête aussi en son hommage. Le fait d'être très triste face à la mort, c'est quelque chose de très occidental. Moi, j'ai des amis cambodgiens qui ont un abord de la mort qui est très différent. Je vais pas dire qu'on fait la fête, mais dans le concept, dans certains concepts extrêmes orientaux, l'idée c'est que si la famille est triste quand le défunt part, l'âme du défunt veut rester avec eux et ne peut pas se libérer et aller rejoindre le paradis, ou enfin on dit ce qu'on veut. Mais moi j'aime bien ce côté-là de se dire, eh ben on honore le défunt, mais on va pas s'apitoyer parce que finalement ça lui permet aussi de se libérer. Alors, est-ce qu'après on va avoir une réincarnation? Après on rentre dans des débats complètement philosophiques et on s'éloigne du sujet. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai pas peur de la mort. J'ai peur effectivement, de la mort de mes enfants, ça c'est sûr. J'ai peur de la vieillesse, de la déchéance, mais pas de la mort.
C'est marrant, ça m'évoque deux personnes, ce que tu partages, mes deux grand-mères. L'une de mes
Oui.
grand-mères qui est décédée, et pour son enterrement, ma maman a choisi un cercueil en carton. Comme il était en carton, tu peux choisir les motifs que tu mets dessus. Elle avait mis un champ de fleurs avec du soleil, etc. Et ma maman est catholique pratiquante, et donc elle avait choisi. Mais donc plutôt que de choisir des musiques d'enterrement, etc., elle avait choisi des musiques joyeuses. Enfin, tu vois, c'était presque la fête dans l'église. Alors moi, je vais pas souvent à l'église, pour être honnête, mais l'image que j'en avais était même en dehors d'enterrement, beaucoup plus solennelle, beaucoup plus froide que ça. Et là, en réalité, il y avait plein de chaleur, plein de bonheur. Et je trouve que c'est une belle façon, effectivement, de voir la mort et d'accompagner ce moment-là. Et mon autre grand-mère, elle est toujours en vie. Elle a 90 ans, et c'est elle qui m'a réconcilié avec la vieillesse. Parce qu'à 90 ans, elle se met à quatre pattes pour jouer avec ma fille de 2 ans et demi, avec une fougue, une énergie, une mobilité incroyable. Elle continue à partir au ski tous les ans en vacances, aller à la fête foraine et faire des attractions interdites aux personnes cardiaques sans aucun problème. Et en réalité, tu vois, elle s'est pas posé la question de est-ce que je vais prendre de la metformine ou manger bio ou quoi que ce soit. Elle a juste mangé des produits bruts qu'elle a toujours eu l'habitude de manger. Elle travaille toute sa journée dans son jardin qu'elle adore. Elle était prof de gym à l'école, elle était prof de PS quoi, en Belgique. Et donc elle a continué à faire de la gym, à entretenir son corps en bougeant, mais parce que ça fait partie d'une philosophie de vie plus qu'une nécessité ou un hack. Tu vois, c'est juste sa façon de vivre. Elle s'expose naturellement au soleil du matin parce que elle commence à bosser dès le matin dans son jardin. Et puis quand elle est fatiguée, elle s'arrête, elle se pose dans son fauteuil, elle lit un livre, elle regarde la télé. Et puis de temps en temps, il y a des gens qui viennent lui rendre visite et elle est contente de raconter ce qu'elle a fait, d'aller faire un tour dans le jardin, etc. Tu vois. Et donc en fait, elle a une vie simple, par cette vie simple, entre guillemets, connectée à son ADN de Cro-Magnon, pour reboucler avec ce qu'on disait au début de podcast, eh ben, elle est restée jeune. Elle est restée jeune à tout niveau, physiquement, intellectuellement. Et voilà, et tu vois, elle a 90 ans. Et franchement, je me dis, si je vieillis comme ça, c'est trop cool.
Oui, bah, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire que moi, c'est pas la mort qui me fait peur, c'est la vieillesse, c'est le fait de mal vieillir. Voilà, quand on voit l'exemple de ta grand-mère, bah, ça force le respect. Je pense que c'est le genre de vie qu'on aimerait tous avoir. Et puis, je vais être un peu cru, mais voilà, t'es en train de faire un truc qui te plaît et boum, une bonne embolie pulmonaire ou un bon infarctus et plus de son, plus d'image, tu vois, et c'est instantané. Ouais, je pense que ça c'est great. Je veux dire, quand je vois la mort de mon père ou de ma mère, ouais, ça donne pas envie. Alors que je trouve que voilà, t'es dans ton jardin en train de cultiver tes tomates et voilà, pomme, tu pètes un anévrisme, ben c'est super quoi. C'est une très belle façon de. Non mais c'est vrai, c'est une très belle façon de mourir.
Ce sera le
Moi
titre
je
du
me
podcast.
souviens.
Tu t'occupes de tes
Non mais
tomates, tu pètes un anévrisme, mais c'est
voilà.
super. J'adore.
Bah ouais, mais si tu veux, enfin, c'est pour ça
Non,
que
t'as
je
raison, je suis
reviens
d'accord.
vraiment sur tout l'aspect concret, pragmatique. Moi, comme je te dis, moi j'adore la science, étudier des trucs, lire des analyses, des études, réfléchir les bidules, les molécules, etc. C'est super cool. Mais à chaque fois, je me dis, ok, mais comment on met de la pratique là-dedans et comment on met de la vie là-dedans. Et voilà, je pense que ta grand-mère, elle a tout compris. Ta grand-mère, c'est une biohackeuse. Voilà, et je suis pas hyper sûr que si elle avait pris des compléments alimentaires, elle serait en meilleure forme. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Il y a un truc que tu as dit que je trouvais très intéressant, c'est que elle, quand elle allait s'occuper de son jardin, bah, c'est un mode de vie, elle se prend pas la tête avec ça. Moi, je pense comme beaucoup, beaucoup de citadins, bon, toi, tu as la chance de vivre très proche de la nature. Mais moi, comme beaucoup de citadins, je suis à Paris. Si je veux aller faire du sport, bah, je vais aller à la salle de muscu. Donc effectivement, moi, ce que je vais aller faire, c'est du sport qui en devient une nécessité dans un besoin, on va dire, de routine, mais qui va être réfléchi, qui ne sera pas quelque chose qui sera pas quelque chose de spontané. D'ailleurs, ça me fait glisser un petit peu vers, parce que je ne vais pas éluder le sujet de ma propre routine. Bon, voilà, moi, en l'occurrence, je vais à la salle au minimum une, généralement deux, et souvent quand je peux, 3 fois par semaine. Je fais en sorte de m'entraîner au sport de combat au moins une fois par semaine. Après, c'est vrai que, voilà, après, mon travail, bon, en tant qu'anesthésiste, je suis quand même très souvent debout. Souvent, je suis au bloc debout. Je vais dans une salle à l'autre. Je monte vers des consultations et tout ça. On peut pas dire que je fasse énormément de sport, mais c'est vrai que, on va dire que je suis pas assis devant un ordinateur toute la journée. Donc là, c'est pour l'aspect physique. Après, tiens, là, je suis en train de lever la tête et je vois que devant ma chambre, il y a une barre de traction. Donc aussi, de temps en temps, je vais sur la barre de traction et j'ai aussi des TRX. De temps en temps, voilà, je m'amuse à faire, quand je peux pas aller à la salle, je m'amuse à faire un peu d'entraînement chez moi. Voilà, tout pour l'aspect physique. Pour l'aspect nutritionnel, globalement, je fais un jeûne intermittent. Globalement, je mange pas le matin en général. Par contre, j'aime bien manger tôt, j'aime bien manger vers midi. Dans ce que je mange, j'ai été OMAD pendant un certain temps, c'était à One Meal a Day, où j'ai testé, je me suis amusé à tester. J'ai beaucoup aimé le keto, que je trouve super pour la perte de poids. Maintenant, je suis plus dans quelque chose de relativement équilibré. D'ailleurs, je me suis rendu compte que plus je reprends la musculation, plus j'ai faim et plus j'ai envie de manger des glucides. Et en fait, bon, je pense que maintenant, je suis, on va dire, un flexitarien raisonné, raisonnable.
Ouais, bah, et c'est marrant parce que j'en reviens à MPK et mTOR. Tu vois, je trouve que le jeûne
Tu
intermittent,
lâches pas
c'est. Non, mais
l'affaire.
parce que je trouve que philosophiquement, tu vois, donc mTOR, c'est vraiment la voie cellulaire liée à l'anabolisme, au fait de construire du
Tout à
muscle, de
fait.
réparer, etc. Et MPK,
Exactement.
de plutôt catabolisme, de plutôt survivre, etc. Et donc, j'ai
Tout à fait.
l'impression que le jeûne intermittent, c'est une belle image de ça parce que pendant la période où tu es en jeûne, tu vas plutôt activer AMPK et tous les avantages liés à AMPK. Et pendant que tu manges, la fenêtre où tu manges, bah, tu vas plutôt activer mTOR et donc pas complètement devenir cet homme fragile, entre guillemets, sans masse musculaire, qui va peut-être vivre très longtemps, mais qui en réalité est fragile, quoi. C'est, excuse-moi du terme, mais c'est parce que je vois, tu vois, l'image qu'on a de certaines personnes comme ça qui sont potentiellement dans la longévité, mais qui mangent en dessous de leurs besoins, qui font pas beaucoup de sport, etc. machin. Extérieurement, tu les trouves quand même fragiles, quoi. Et donc, j'ai l'impression que voilà, le jeûne intermittent, philosophiquement, on en revient un petit peu aussi à cette homéostasie, à cet équilibre entre des périodes plutôt de conservation, d'expansion, d'intensité, de repos, etc. Tu vois. Et donc je pense que tout comme ça fonctionne dans la vie, tu vois, le vivant est comme ça, les cycles de la nature, les saisons, la journée, etc. Et j'aime bien, ouais, j'aime bien cette vision, j'aime bien cette vision.
Ouais,
C'est pour ça que j'y reviens.
je suis 100% d'accord avec toi. Après, là, juste par rapport à ce que tu dis du jeûne et du fait d'avoir ou non assez de calories, le problème, c'est qu'il y a des gens qui jeûnent et que parce que justement ils ont ce culte du jeûne, ils finissent effectivement par être un peu dénutris. Il y a un grand débat qui agite la communauté scientifique, les sportifs, c'est combien faut-il de prendre de protéines par jour? Alors, ça, c'est la grande question. Enfin, je sais pas, toi, t'as dû aussi étudier cette question parce que ça fait partie des questions. Alors, il y en a
Bien
qui
sûr.
disent, ben, en fait, les protéines, c'est pas bien, il faudrait se limiter à 0,5 grammes, voire 0,3 grammes par jour, par kilo de poids. Et puis il y en a d'autres qui disent, ah non, pas rigolo, quoi, faut monter à un 5, voire 2. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont dites. Indépendamment du fait de savoir combien il faut en prendre, beaucoup de personnes qui justement pratiquent le jeûne intermittent ou la réduction calorique, en fait, sont en atrophie musculaire
En
et
déficit.
finalement se retrouvent avec un corps qui manque d'énergie. L'idée, c'est quand même. Moi, il y a une application que j'aime beaucoup, c'est FatSecret. Je ne sais pas si tu as l'occasion d'utiliser FatSecret, mais FatSecret, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire FatSecret, on rentre ce qu'on mange et à la fin, on voit les macros qu'on a pris, etc. Ça, je trouve ça assez sympa parce que ça permet vraiment de prendre conscience de ce qu'on prend, du nombre de protéines qu'on prend, du nombre de glucides, etc. Et aussi, ça permet de voir un petit peu combien on prend de calories par jour. Parce que ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve ça cool de faire du jeûne intermittent, de voir même du OMAD, de ce qu'on veut. Maintenant, je pense que c'est déraisonnable de manger moins de son métabolisme de base par jour. Voilà, je pense qu'il faut au moins manger son métabolisme de base par jour. Globalement, on a un métabolisme de base. Je crois que mon métabolisme de base, avec mon activité physique, je sais pas, j'ai pas spécialement en tête, mais on va dire que hors activité physique, je dois être à peu près à 1800. Avec activité physique, je dois peut-être monter à 2002. Pour moi, ce serait totalement déraisonnable de manger de moins de 1800 calories. Ce serait une aberration.
Ouais, quand je parlais de déficit calorique, c'est parce que dans l'étude des zones bleues, justement, on s'est aperçu qu'en général, ils mangeaient à peu près 20% en dessous de leurs besoins. Et c'est un peu ce que David Sinclair disait aussi. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu manges moins que tes besoins, bah, peut-être que t'es en meilleure forme d'un point de vue métabolique, mais d'un point de vue énergie, d'un point de vue sport, etc., c'est impossible. Et je suis d'accord avec toi aussi, tu fais bien de le rappeler que le jeûne intermittent n'est pas forcément synonyme de restriction calorique. Moi, personnellement, je fais un jeûne intermittent aussi, et ça m'empêche pas de manger 2008, 3000 calories par jour parce que je fais beaucoup de sport et que j'ai des objectifs inhérents à ça. Tu parlais aussi de la calculatrice de calories. J'en ai utilisé une pendant des années, et donc maintenant, elle est un petit peu intégrée dans ma tête, donc je sais facilement quand... estimer plus ou moins ce que je mange en voyant les aliments parce que je sais ce qu'il y a dedans. J'ai tendance quand même à utiliser comme ça pendant 15 jours, 3 semaines ce type d'application lorsque je change drastiquement de diète. Tu vois, au début, je mangeais quand je faisais de la muscu, je mangeais beaucoup de glucides. Après, j'ai testé le régime cétogène et puis maintenant, je suis plutôt sur du high fat low carb, c'est-à-dire que plutôt une grosse tendance quand même lipides protéines,
C'est tout jeune, quoi.
mais malgré tout je mange quand même peut-être 20-30% de glucides par jour, donc quand même beaucoup plus de glucides que dans du cétogène, et je me sens beaucoup mieux comme ça. Je trouve que c'est une belle voie du milieu parce que le fait de manger moins de glucides me permet d'être plus focus, d'avoir une énergie plus stable, etc., forcément lié à la glycémie, mais en même temps le fait quand même de garder 400 calories par jour en provenance des glucides, donc 100, 150 grammes de glucides par jour, et ben ça m'aide à refaire mes stocks de glycogène et ça me permet d'être plus explosif, plus performant dans mon sport, à éviter des coups de fatigue, etc. Donc je trouve que moi je me sens très bien comme ça. Ça correspond en plus à mon ApoE, qui est une approche dont j'ai déjà parlé qui me plaît pas mal. Ouais, donc voilà. Et donc quand je teste, quand je change de diète, j'aime bien utiliser aussi ce type d'application pour avoir un référentiel. Et après, sur la question des protéines, c'est vrai que tout le monde s'est jeté là-dessus. Après, je pense que il y a deux trucs par rapport à ça. Déjà, quand tu manges que 2 repas par jour, déjà quand tu fais du sport, je pense que tu es obligé de manger quand même suffisamment de protéines. C'est inhérent à la pratique du sport. Donc être
Normal.
en dessous de 1,2 gramme, 1 gramme ou 1,2 gramme par kilo de poids de corps, ça me
Tu peux
paraît
pas, c'est
déraisonnable.
impossible, c'est impossible.
Voilà. Et 1,2 gramme quand tu manges que 2 repas par jour, surtout si tu manges pas beaucoup de glucides, ça fait déjà pas mal de protéines, donc pas mal potentiellement d'œufs, de viande ou de poisson. Donc en fait naturellement tu te régules parce que t'as pas envie d'aller manger 2 grammes, parce que 2 grammes ça t'obligerait à manger des tonnes, ou alors de prendre des protéines en poudre. Mais si tu veux pas prendre de protéines en poudre, donc je veux dire, et la conclusion de cet exemple, c'est de montrer qu'il y a aussi une forme de sagesse naturelle du corps. C'est bien, je trouve, de s'intéresser à ce qu'il y a dans les nutriments, parce que si t'as vraiment aucune notion de nutrition, tu comprends pas, tu vois vraiment ce que tu manges, la répartition de tes calories, l'équilibre de ton repas en termes de macronutriments, etc. Il faut quand même avoir, je pense, des grosses bases minimales, c'est important. Mais pour autant, je pense que il faut aussi écouter son corps. Et moi, je ressens quand j'ai envie, si j'ai suffisamment de protéines ou pas, si j'ai suffisamment de glucides ou pas, et si j'ai suffisamment de lipides ou pas. Tu vois, par exemple, si je fais un gros entraînement de course à pied, le soir, je mets, je sais pas, 3 cuillères à soupe de sarrasin ou de millet, par exemple, que j'ai fait cuire, avec de la viande et des légumes. Et à la fin de mon repas, ben, parfois, j'ai envie de plus de glucides. Et donc, du coup, je mange une banane. Et puis, là, je sens que j'en ai pas eu assez. Je m'en remange une deuxième, tu vois. Et puis, peut-être avec de la purée d'amandes, en plus, d'amandes blanches. Voilà, tu vois, je veux dire, il y a une forme de ressenti aussi. Je pense que le ressenti est un mauvais guide quand t'as l'habitude de manger tout le temps de la junk food, que tu grignotes toute la journée, etc. Là, tu peux plus faire confiance à ton corps parce que ta glycémie, elle fait yo-yo toute la journée. Mais quand t'as plus ou moins régulé ta glycémie, que tu manges plutôt correctement, notamment si tu fais du jeûne intermittent, donc que tu manges moins de fois dans ta journée, etc. Bah, je pense que tu peux écouter aussi ton envie, ton besoin, ton ressenti, et c'est un bon guide.
Moi, je vais totalement dans ton sens. Effectivement, on peut se prendre des capteurs de glycémie qui permettent de voir la glycémie au cours de la journée. Mais tout à fait d'accord avec toi, à partir du moment où on a retiré les sucres rapides, tout l'aspect junk food, tous les sucres cachés dans l'alimentation, ça voilà, j'ai écrit un bouquin dessus. Donc évidemment, c'est un sujet que je connais bien. Effectivement, on peut écouter son corps. Moi, je dis que effectivement, on peut faire des apos, on peut faire la nutrigénomique, on peut aller faire un screening génétique de notre ADN. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire que je l'ai fait, parce que normalement, on n'a pas le droit de le faire. Donc, si je l'ai fait, mais à l'étranger, donc j'ai le droit de le faire. Oui, j'ai fait un screening de mon ADN à l'étranger, donc non, j'ai le droit de le dire. Quoi qu'il en soit, on peut faire plein de choses, je pense que par rapport à la nutrition, il n'y a que deux repères qui sont intéressants. Un, comment je me sens en énergie quand je mange tel ou tel aliment, premièrement. Et deuxièmement, comment je fais caca une fois que j'ai mangé. Je suis désolé de parler crûment, mais c'est vraiment ça. Quand tu vas à la selle, tu fais un perfect ou un super perfect, et que tu te sens plein d'énergie, c'est a priori ce que tu as mangé, ça te correspond. Voilà, faut être basique.
Ouais, j'aime bien. Et puis en plus, ça rend en plus chacun responsable de sa propre exploration, parce bien que sûr. Tout ça, et moi je le dis tout le temps, tu vois, c'est vraiment une exploration. Il faut faire des tests, des essais, des erreurs, et petit à petit on arrive vers la voie qui est idéale pour nous.
En fait, si tu veux, il y a plein de manières de voir le biohacking. Il y en a qui voient le biohacking à la mode Brian Johnson, c'est-à-dire faut être totalement psychopatho. Il y en a pour qui le biohacking, en fait, c'est purement être dans la nature, courir nu dans les bois et manger des baies, ou aller à la cueillette ou à la chasse. Moi, j'ai une vision du biohacking qui est totalement scientifique. C'est-à-dire que je regarde les publications scientifiques, je regarde ce qui marche, ce qui marche pas, et j'ai vraiment cette idée de se dire, on va avoir une démarche scientifique. Une démarche scientifique, c'est quoi? C'est un, je prends un modèle. Deux, je prends une hypothèse. Trois, je teste mon hypothèse. Je regarde ce qui marche, ce qui marche pas, et ensuite je tire une conclusion, et ensuite je teste cette conclusion, et je vois dans quel sens je vais. C'est ça ce qu'on appelle une démarche scientifique. Donc, voilà, pour moi, le biohacking, c'est comment appliquer cette démarche scientifique à soi-même dans un but d'optimisation. Et c'est ça que je vois. Tiens, je vais te montrer juste, tiens, je vais faire un peu pour montrer. Voilà, je sais pas si on voit. Ça, c'est moi, avant de faire du biohacking. Hein? Ça, c'est on moi. Maintenant, je suis pas parfait encore, mais il y a une différence.
Ouais, si. La différence, voilà, est assez flagrante. On mettra les photos dans l'article lié sur limitless-project.com pour ceux qui veulent voir avant après.
Donc vraiment, c'est ça. À partir du moment où quand je vois que maintenant à 51 ans, j'ai beaucoup plus d'énergie, je suis beaucoup plus productif, je soulève certainement beaucoup plus lourd que quand j'avais mettons 45. Et je me dis, ok, c'est que je dois être dans le bon truc. Je veux dire, depuis que je fais du biohacking, j'ai écrit 4 bouquins, enfin écrit ou co-écrit 4 bouquins. J'ai fait, je sais pas, une dizaine de formations, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. J'ai fait des conférences un peu à droite à gauche. J'en donne régulièrement en Suisse. Je fais plein de choses avec ça. J'ai 4 enfants, j'ai mon métier où je suis anesthésiste à plein temps. Et il y a plein de personnes qui disent, mais comment tu fais pour faire autant de trucs? Et moi, je réponds, bah, je fais du biohacking. Il n'y a pas de.
Et
Il n'y a pas de
justement,
secret.
dans cette exploration, donc tu as parlé de la salle de sport, du jeûne intermittent, on a quand même évoqué en début de podcast tous les compléments alimentaires, etc. On a parlé d'outils comme la lumière rouge. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu as testé? Qu'est-ce qui te semble digne d'intérêt avec la rigueur scientifique qui te définit?
Alors la lumière rouge, je trouve ça excellent. Les lunettes anti-lumière bleue. Quand on lit les études, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Personnellement, ça m'a pas fait un effet foufou parce que voilà, moi j'ai une manière assez rapide de m'endormir. D'ailleurs, souvent mes enfants ils se moquent de moi parce que même quand on regarde la télé ensemble, je pose la tête sur l'oreiller, je m'endors quasi instantanément. Donc même si j'ai travaillé sur un ordinateur le soir, je m'endors à toute vitesse. Donc, pour ça, je suis pas sûr que c'est un effet incroyable. Le jeûne, je trouve c'est super cool. Les compléments alimentaires, c'est compliqué parce que à un moment j'ai pris un tel cocktail que c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui fonctionne. En fait, j'ai pris tout ce que prenait David Sinclair. Donc, en fait, voilà, moi je me fournis dans un laboratoire américain qui s'appelle Do Not Edge, que tu dois certainement connaître. Donc moi je prends j'ai même plus je me souviens plus tout ce que je prends mais je prends donc du NMN en sachant que bon on peut remettre en question en tout cas parce que je prends du NMN resvératrol je prends spermidine, fisétine, quercétine, apigénine qu'est-ce que je prends encore? Créatine, oméga 3, vitamine D, magnésium. Qu'est-ce que je prends encore? Citrulline. Tu vois, je me souviens même plus. Tellement l'habitude de prendre mes trucs. Tu vois, donc globalement, quand on prend de tels cocktails, c'est très difficile parce que j'ai pas vraiment isolé. Là, pour le coup, j'ai pas une démarche scientifique aussi rigoureuse. Normalement, j'aurais dû en prendre un, le tester pendant un mois, puis ensuite en prendre un autre et le tester. Bon, là, je dois dire que pour ça, j'ai pas été très rigoureux. J'ai fait confiance à David Sinclair.
Et depuis que tu prends ce cocktail, est-ce que tu as vu des changements mesurables?
Bah, là encore, c'est difficile parce que
Oui, tu sais pas ce qui est la cause, mais est-ce que tu as vu des
c'est
changements?
très difficile à dire. En fait, le truc, c'est que toute cette prise, elle s'est faite aussi dans un moment où, par exemple, j'ai repris plus intensément le sport. Alors là encore, est-ce que c'est parce que j'avais plus d'énergie que j'ai voulu faire plus de sport? Enfin, c'est difficile à dire. Qu'est-ce qui m'amène le plus au quotidien? Le fait que j'ai repris plus la muscu, le fait que je prenne ces compléments alimentaires, le fait que je fasse plus attention à mon alimentation, c'est ça qui est difficile, c'est que je n'ai pas isolé les items. Et en fait, ça rejoint vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la grosse difficulté par rapport à l'âge, c'est ce qu'on appelle la métrologie de l'âge. C'est comment mesurer le vieillissement. Ça, c'est j'en avais discuté avec un gars qui travaille pour un site que tu connais certainement qui s'appelle Long Long Life. Je sais pas si tu connais Long Long Life.
Non.
Donc c'est un site qui est tenu par des gens qui aiment bien bosser sur tout ce qui est l'aspect longévité. Et en fait, on dit très clairement, c'est comment mesurer les choses. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé des télomères. On se rend compte que maintenant, les télomères, c'est peut-être pas l'idéal. On a beaucoup parlé de l'horloge d'Horvath. Mais en même temps, il y en a plusieurs, donc c'est compliqué. On a parlé de l'agglication. Ah, ok, mais est-ce que l'agglication, c'est parfait? En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de réelle mesure. Et que, objectivement parlant, la meilleure mesure de l'âge, c'est comment tu te sens. Quelle est ton énergie? De la même façon que je disais, la meilleure nutrigénomique, c'est de dire comment je me sens en énergie et comment je fais caca après tel ou tel aliment. La meilleure mesure de l'âge, c'est, ok, maintenant j'ai 51 ans, comment j'étais quand j'en avais 45? Ah, ok, je me sens mieux, je me sens plus. Tout comme toi, d'ailleurs, tu dis très bien que là, tu as une énergie qui est bien plus intéressante et
Bien
bien plus
sûr.
puissante que quand tu étais plus jeune. Alors que c'est contre-intuitif, tu vois, là, tu as quoi, je sais plus, 35 ou.
Ouais, 32.
Ouais, 32. Bon,
32, et c'est
32,
clair que je me sens 100 fois plus en forme que quand j'avais 20 ans. C'est vrai que
voilà.
c'est complètement absurde.
Alors bon, c'est sûr qu'après, bon, forcément, tu vois, on a 20 ans d'écart. Donc voilà, bon, je pense que faut être quand même honnête que malgré du David Sinclair, malgré du Peter Attia, malgré du Brad Stanfield, malgré du ce qu'on veut, ben c'est sûr que tu me battras la course, quoi. Tu vois, j'ai beau m'entraîner, je pense que l'âge, de toute façon, il y a quand même des trucs qu'on peut pas. Puis bon, le fait que je me sois pas non plus autant entraîné pendant des années, donc il faut quand même être honnête aussi que le but c'est de faire entre guillemets, ça paraît cuculapralinette ce que je vais dire, mais une compète avec soi-même. La question c'est comment soi-même on se sent et comment on peut soi-même s'améliorer par rapport à notre propre modèle. C'est sûr que toi tu vas avoir un niveau d'exigence parce que tu es déjà sportif, que tu as une condition physique, que tu as, on va dire, peut-être une génétique qui est peut-être plus prédisposé que d'autres et donc beaucoup plus bénéficier de petits ajustements. Moi, je vois par exemple mon fils qui a 14 ans, il est plus grand que moi, il a la tablette de chocolat, il fait plus de traction que moi, il m'a même battu au bras de fer. Bon, ben voilà, mon fils, c'est une machine de guerre. En plus, lui, il est marrant parce qu'à chaque fois qu'il mange quelque chose, sa première question, c'est est-ce que c'est bio? Donc, il y a... voilà, je pense qu'il y a quand même une part génétique et éducationnelle.
Génétique et épigénétique, ouais, carrément. J'en parlais avec Vincent Foulonneau, que j'ai reçu sur le podcast aussi, et qui me disait que le pool mitochondrial, en réalité, qu'on avait à la naissance, était hérité de la mère. Donc, en gros, déjà, ça se passe même avant même que tu naisses. Si ta mère faisait du sport ou pas, eh ben, ça va conditionner ton pool mitochondrial. Et donc, le pool mitochondrial, étant donné que les mitochondries sont les centrales énergétiques du corps, eh ben, potentiellement, te prédispose à être plus ou moins énergique, efficace, notamment dans le sport. Et puis, on sait que le fait de faire du sport jeune est extrêmement déterminant dans les performances futures. Alors pour ma part, non, j'ai démarré tard. Hein. Enfin, j'ai toujours fait un petit peu de sport comme ça le dimanche, tu vois, comme n'importe quel étudiant à l'école, tu vois, mais j'ai fait de la voile. Alors c'était pas quelque chose de très intense. Et puis après, une fois que j'ai eu mon bac, je me suis surtout concentré sur le sport de chambre et le sport de boîte de nuit plus que sur le sport d'activité physique, mais quoi qu'il en soit, ouais, je me suis mis peut-être à 26 ans, à 26 ans, à 27 ans, à faire sérieusement du sport. Et d'ailleurs, ça m'a fait péter aussi des croyances limitantes en me montrant que, tu vois, par exemple, j'avais horreur de la course à pied, je détestais ça, même au bout de 2 km, je crachais mes poumons. Et puis maintenant, je m'amuse à essayer de faire des petits ultra trails, parce que justement, ça fait péter mes croyances limitantes et que j'aime ça. Et que ça nourrit aussi ma soif d'exploration, de mes limites, physiques et mentales. Le dernier point sur cette approche de biohacking, et puis après je vais t'emmener un peu sur mes questions de fin, est lié au flow. Parce que tu m'as parlé tout à l'heure de la respiration carrée qui t'aidait à te mettre dans un état de concentration. Tu as aussi cité le fait que, en plus de ton métier de réanimateur, enfin d'anesthésiste réanimateur, de père de famille, tu avais réussi à écrire 4 bouquins et faire 10 formations. Donc j'imagine que l'efficacité, la productivité, la concentration sont des sujets qui t'intéressent.
Bien
Est-ce que
sûr.
tu es adepte de choses comme les nootropiques? Et est-ce que sinon tu as trouvé des techniques entre guillemets naturelles qui te permettent de conditionner ton état de vigilance?
Faut que je réponde des choses officielles ou officieuses?
Officieuse.
Ouais, ok. Alors, donc, comment je fais pour, ouais, pour rester concentré, etc. Alors, il y a plein de choses. Tout d'abord, alors, mis à part tout l'aspect énergie dont tu parlais, hein, l'aspect
Bien sûr.
mitochondrial, etc., etc., une attention rigoureuse à la dopamine. J'entends par là éviter de la gâcher, c'est-à-dire éviter autant que faire se peut tout ce qui est les réseaux sociaux, les images de chats, les images d'Instagrammeuses, etc. Enfin, tout ce qui est, on va dire, du gâchis de la dopamine, c'est un premier point. Deuxième point, comprendre que la dopamine est fabriquée par notre tube digestif essentiellement à 60%. Donc, faire attention à son alimentation. Ensuite, manger une alimentation suffisamment riche en acides aminés pour avoir les précurseurs de la dopamine. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait ça, effectivement, les nootropiques. Alors, les nootropiques, je vais juste t'expliquer, je ne sais pas si ton audience est un peu au courant de ce que sont les nootropiques.
Non, j'en ai pas parlé beaucoup.
D'accord. Donc, les nootropiques, c'est quoi? Les nootropiques, ce sont des substances qui ont la capacité d'augmenter les capacités cérébrales en régulant la production des neurotransmetteurs ou bien l'affinité des neurotransmetteurs à leurs récepteurs. Donc, c'est des substances qui sont vraiment actives sur le cerveau. Les nootropiques sont là pour augmenter la concentration, la mémoire, les capacités de motivation également, en fonction des indications. Les nootropiques, il en existe des naturels. Le plus connu, c'est le café. Voilà. Enfin, plutôt la caféine. La caféine est un nootropique naturel. Mais on peut aller chercher des nootropiques non naturels. Je suis obligé de, puisque quand je te disais tout à l'heure, est-ce que je dois donner une réponse officielle ou officieuse, je vais quand même mettre en garde l'audience par rapport aux nootropiques, parce que on voit beaucoup de tout et de n'importe quoi sur Internet. En fait, il y a des nootropiques artificiels qui sont des médicaments détournés. Le plus connu, c'est le piracétam. Le piracétam, c'est un médicament qui, sous le nom de nootropil, qui est un médicament contre la maladie de, enfin, pour prévenir la maladie de Alzheimer. Et effectivement, des études ont montré que quand on n'avait pas la maladie de Alzheimer et qu'on prenait du piracétam, on augmentait nos capacités mentales. Le problème, c'est qu'il faut quand même pas oublier que ça reste des médicaments qui sont détournés de leur usage. Donc, il y a des contre-indications, il y a des effets secondaires et on peut pas prendre comme ça sans réflexion. Les nootropiques, c'est quelque chose qu'il faut prendre d'une manière raisonnée, raisonnable, et qu'il faut commencer par prendre des nootropiques naturels, donc en général qui sont des plantes, avant de commencer à chercher des substances. Sachant ce qu'on disait tout à l'heure, le fameux 80-20, c'est-à-dire qu'avant d'aller chercher des choses compliquées, au niveau des compléments alimentaires, faut faire des choses simples. Sur son alimentation, prendre assez de sources de protéines, éviter de gâcher notre dopamine.
Ok, très clair. Et donc, la respiration carrée là-dedans ?
Alors, la respiration carrée, il n'y a pas énormément d'études sur la respiration carrée. En fait, c'est plus, on va dire, l'expérience de certaines personnes, dont un gars qui, ça y est, je ne me souviens plus de son nom, Marc Divine, hein, comme ça, qui est un ancien instructeur des Navy Seals, qui dit que grâce à la respiration carrée, il a observé une augmentation des capacités de ses troupes, et notamment des tireurs d'élite, à entrer dans le flow, et que dans cet état de flow, donc un état, on va dire, où finalement tout paraît très simple et naturel, hein, ce que les sportifs appellent la zone, eh bien, ils auraient observé une augmentation des capacités des tireurs d'élite à avoir une réactivité beaucoup plus importante et avoir une précision plus importante. Ce qui est très intéressant, c'est que bien souvent, l'armée a apporté, par les recherches qu'elle a pu entraîner, des progrès extraordinaires pour les civils. Eh bien, voilà, c'est le cas. Il semblerait que la respiration carrée qui permet aux tireurs d'élite américains d'être plus précis, ça permet aussi à tout un chacun d'être plus concentré et plus productif.
Et toi, tu l'utilises ?
Ah oui, j'utilise avant. En fait, quand je dois faire un travail, on va dire, qui me demande une grande intensité pendant peu de temps, alors déjà, ce que je fais, c'est que je fais en sorte de mettre mon téléphone. Là, bêtement, je l'ai pas fait. Mon téléphone est là et j'ai des notifs. Et donc, de temps en temps, j'ai mon œil qui regarde. Normalement, quand je fais un travail, le téléphone, je fais en sorte qu'il soit pas dans la même pièce parce qu'on est toujours distrait. La respiration carrée avant de me mettre au travail. Et j'aime bien prendre éventuellement un peu de caféine, un peu de théanine pour augmenter la dopamine de la N-acétyl et le tyrosine, du NALT donc. Et éventuellement, c'est pour ça que je te disais ce qu'il faut que je dise officieux ou officiel, j'hésite pas à me prendre un chewing-gum de nicotine.
Okay.
Parce que la nicotine est un excellent nootropique.
Ouais, d'ailleurs, Jean Rosis, que j'avais reçu sur le podcast aussi, m'avait parlé de la nicotine en spray. Lui, il avait trouvé en spray et il conseillait ça. Il conseillait ça aux gens qui avaient des présentations à faire, tu vois, genre tu dois faire une conférence, etc. Tu stresses un petit peu avant de monter. Tu te prends ton petit shot de nicotine. Apparemment, c'est hyper efficace.
moi, je déconseillerais.
Le spray.
Pourquoi ? Bah ouais, moi j'ai failli dégueuler avec le spray. Ouais. Parce qu'en fait, personnellement, hein, j'ai trouvé que la montée était beaucoup trop intense Et que finalement, le chewing-gum ou le patch, moi, je trouvais ça plus intéressant parce que ça va plus doucement. Ouais, le spray, j'ai pas trouvé ça foufou.
Ok, à tester, j'avoue, j'ai pas testé, mais la prochaine fois que j'ai une conférence à faire, j'essaierai.
Bah, en fait, si tu
Tout ça, je
veux,
suis gomme.
comment dirais-je, les fumeurs, ils connaissent très bien ça. Pour les
Ah bah,
fumeurs, les
par contre,
dé...
j'ai été
les...
fumeur pendant 10 ans.
Ouais, bah, donc tu te souviens, le truc que préfèrent les fumeurs, c'est café-clope.
Oui, c'est vrai.
Bah, c'est normal, c'est deux nootropiques, hein.
En fait, je faisais du biohacking sans le savoir à l'époque.
Ouais, bah ça, de toute façon, à partir du moment où on expérimente des trucs, voilà. Et bon, alors, tout à l'heure, j'ai mis en garde là, par rapport au pyracétam. Il y a aussi un autre médicament dont je voudrais parler. Je sais pas trop si j'allais mentionner la chose, mais il y a un film qui a beaucoup fait parler de lui il y a quelques années avec Bradley Cooper qui s'appelle Limitless, où justement le héros, il prend une substance qui s'appelle le NZT et qui le rend super bon, super focus, super motivé. Il devient une machine de guerre au niveau cérébral. Et donc beaucoup de personnes se disent, mais qu'est-ce que le NZT? Donc le NZT, ça n'existe pas. Et il y a beaucoup de personnes sur les sites internet, soi-disant de bons conseils, qui disent que le NZT, en fait, c'est un médicament qui s'appelle le modafinil. Mais attention, le modafinil, c'est un médicament qui est fait pour la narcolepsie, c'est-à-dire c'est un médicament qui est fait pour les personnes qui s'endorment d'une manière un petit peu inopinée. Et effectivement, quand on détourne ce médicament, qu'on prend du modafinil, on augmente nos capacités mentales, on peut être plus productif, on dort que 4 heures par nuit, on a l'impression qu'on est le roi du monde. Mais le problème, c'est qu'après, bah, on le paye. Et que faut pas oublier que c'est des médicaments, qu'il y a des contre-indications, des effets secondaires. Donc voilà, je cite le pyracétam et je cite le modafinil, mais attention, je ne conseille ni de prendre l'un ni de prendre l'autre. Bon, pour la petite histoire, évidemment, j'ai testé l'un et l'autre, hein, je vais pas mentir. Mais voilà, ça reste des médicaments. Il y a des contre-indications, il y a des effets secondaires. Donc, faut éviter de prendre ces substances.
Moi, j'ai testé aussi à l'époque, mais j'appelais ça cocaïne. Ouais, je te propose de passer aux petites questions de fin. Est-ce qu'il y a trois choses dans ta journée que tu fais tous les jours et qui sont absolument indispensables à la pleine expression de ton potentiel?
Trois choses. Poum, 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 poum. Alors, je dirais que peut-être ma méditation de gratitude du matin qui me permet un petit peu de remettre en forme les pensées avec lesquelles je me réveille le matin qui vont un peu dans tous les sens. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, bah, m'exposer à la lumière du jour. C'est vrai que moi, je vais au boulot en scooter. Et en fait, sur le trajet que je prends, je passe par des coins de Paris que j'aime beaucoup. Et donc, je suis à la lumière du jour. Et dernier point, difficile à dire parce que j'essaie de penser à tout ce que je fais d'une manière assez systématique. Eh ben, je dirais me coucher dès que je sens que mon corps il me dit qu'il faut y aller. Toutes les fois où j'ai forcé le truc, tu vois, Pampire, je suis allé à une réunion qui a fini tard, mais honnêtement, j'aurais pas été à la réunion, je pense que j'aurais été mûr pour m'aller me coucher à 21h30. Et je l'ai pas fait, parce qu'évidemment, j'avais cette réunion, j'allais pas m'endormir au beau milieu.
Tu auras peut-être cette chance ce soir. Un outil que tu
J'espère.
aurais acheté ces dernières années et qui a drastiquement changé ton quotidien?
Pum, 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 pum. Après, on peut trouver des gadgets style la bague Oura. Ça, ok. Est-ce que la bague Oura, ça change vraiment le quotidien? Pas sûr. Alors, j'aurais tendance à dire, effectivement, peut-être une barre de traction. Ça paraît tout bête, mais ça permet finalement de faire très rapidement du sport chez soi et avec ce qu'on peut appeler l'effet cumulé. On peut par exemple décider qu'à chaque fois qu'on passe en dessous, on fait trois tractions. C'est rien, hein, trois tractions, c'est que dalle. Hein. Sauf que ben, si cette barre, on passe 10 fois, 15 fois en dessous, et ben, on finit par faire 35 tractions, 45 tractions sur la journée. Et ce qui est très important, ça c'est un mot qu'on n'a pas forcément utilisé, mais qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est absolument pas grave hein, d'aller chez McDo. On peut se bouffer un Big Mac, s'éclater avec des frites, on peut se manger une côte de bœuf bien grasse avec des frites à la graisse de bœuf, on peut se bouffer du gâteau au chocolat industriel avec de la mousse chantilly, c'est OK. Mais ce qui est important, c'est de comprendre le principe de l'effet cumulé. C'est-à-dire que faire ça une fois, ça va. Le problème, c'est quand on fait ça une fois, une autre fois, une autre fois, une autre fois. C'est comme la cigarette, hein. Prendre une cigarette, c'est pas grave. Le problème, c'est l'effet cumulé. On sait très bien que, par exemple, je fais une petite parenthèse par rapport à la cigarette, mais ça fait bien comprendre. En médecine, on considère la consommation de tabac avec ce qu'on appelle le nombre de paquets années. Un paquet par jour pendant 20 ans, c'est un paquet année. Mais 20 paquets par jour pendant un an, c'est aussi 20 paquets années. Et donc, ce qui est important, c'est l'effet cumulé. Et c'est ça, en fait, qui tue. C'est l'effet cumulé. C'est pas le fait d'avoir de faire un écart de temps en temps. Et ça, c'est vrai tant pour ce qui est néfaste que pour ce qui est positif. Faire une pompe par jour, c'est rien. Mais finalement, quand on fait une pompe par jour, ben, ça en fait quand même 365 par an. Et là, ça devient déjà assez sympa.
J'ai aussi une barre de traction à laquelle je me suspends pendant la journée. Alors, je fais pas de traction avec parce que j'ai déjà des séances de sport dédiées, mais le simple fait de se suspendre, d'étirer la colonne vertébrale, etc., je trouve que ça fait beaucoup de bien. Sur un point de vue plus philosophique, qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir sa vie?
Eh bien, alors, pour moi, réussir sa vie, ça veut dire au moment de partir, je dirais avoir ni remords ni regrets. Moi, je vois le dernier jour de ma vie comme étant le plus beau jour de ma vie. Parce que finalement, il n'y a plus à se dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il n'y a plus que du passé. Et il n'y a plus qu'une manière de voir avec, je dirais, beaucoup de tendresse, la vie qu'on a vécue. Et en se disant, ben finalement, j'ai fait chaque fois ce que je pensais être le plus juste, même si j'ai fait plein d'erreurs. Voilà, pour moi, c'est ça, réussir sa vie.
Avoir suivi son cœur.
Ouais. Et voilà. Pour moi, c'est pas. En fait, c'est pas forcément réussir ses objectifs, parce que ce qui est intéressant, c'est que parfois on a des objectifs et on pense que réussir sa vie, c'est réussir ses objectifs. Mais ce qui est marrant, c'est que parfois nos objectifs sont totalement décorrélés de notre nature et de ce qu'on peut, de ce dont on est capable. Tu vois, par exemple, si quand tu avais 20 ans, on t'avait dit, tiens, tu vas voir, à 32 ans, tu feras un truc limitless, tu vas cultiver la longévité, le fait d'être sportif, le fait de manger super bien, tu aurais peut-être dit, attends, tu me fais chier, attends, je vais en boîte et je vais me fumer une clope.
Voilà.
Et peut-être qu'à cette époque-là, tes objectifs, c'était autre. Et
Bien
en
sûr.
fait, ce qui est marrant, c'est que, et ça rejoint un petit peu ce principe de l'ikigai, principe japonais, il y a ce qu'on a envie de faire, et il y a ce pourquoi on est bon. Et c'est vrai que, voilà, personnellement, même si c'est pas forcément ce que j'aurais pensé faire, quand j'étais plus jeune, il semblerait que là où je suis bon, m'envoie des fleurs, hein, mais il semblerait que là où je suis bon, c'est pour enseigner et transmettre. Voilà, il paraît que je suis un très bon pédagogue. Bon, ben, c'est cool. Ça me fait plaisir, mais c'est pas du tout ce que j'aurais pensé faire initialement. Alors, bon, maintenant, je m'éclate à donner des cours, mais c'est pas ce que j'aurais pensé faire initialement.
Est-ce que tu aurais un défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir? Quelque chose qu'ils pourraient faire tous les jours ou juste une fois et qui pourrait peut-être les mettre sur leur permettre de découvrir un nouveau petit détour sur leur chemin? Une nouvelle petite lumière?
Ouais, un truc super simple, très pratico-pratique, c'est tout simplement s'amuser à tester un petit peu ce que ça serait de supprimer tout sucre ajouté. C'est tout con comme truc, hein. Mais c'est voir un petit peu qu'est-ce qui serait sans aucun sucre, de tester. Quand je dis sans aucun sucre, ça veut pas dire sans glucides, hein, si vous voulez manger du pâte, du riz, c'est pas la question. Mais de tester un petit peu aucun sucre et de voir un peu ce que ça fait. Au début, c'est sûr que ça sera peut-être un petit peu désagréable les 3 premiers jours, mais après de découvrir ce que ça apporte. Voilà, ça pourrait être un conseil. Après, il y en a
Ok.
plein.
Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Un prochain invité à me recommander? Que tu aimerais entendre sur les Limitless Project?
Gabriel.
Gabriel, ok. Pour terminer, est-ce que tu t'as, donc t'as dit que tu avais écrit 4 livres, 10 formations. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Comment est-ce qu'on reste en contact avec toi? Comment est-ce qu'on fait pour poursuivre si on a aimé ton approche? Tu dis que tu es un excellent pédagogue. Alors comment
Il
est-ce qu'on
paraît,
peut
il paraît, il paraît, il
profiter?
paraît.
Comment est-ce qu'on peut profiter de ta lumière d'enseignement?
Alors déjà, j'ai un site internet avec une newsletter. Alors jusqu'à présent, je n'avais pas été très très rigoureux sur les newsletters. Donc là, j'ai vraiment fait en sorte de lancer. Là, il y aura vraiment une newsletter toutes les semaines où justement je vais parler de sujets de biohacking, de santé, de performance, de longévité. Donc il y a certaines newsletters qui seront vraiment plus consacrés à un domaine et d'autres qui seront plus sur d'autres domaines. Vous pouvez télécharger un e-book que j'ai écrit qui est sur mon site internet, mais je pense que tu mettras les liens sur
Oui, je mettrai tous les liens dans l'article.
docteurdenis.com/cadeau. Vous pouvez télécharger l'e-book consacré au cerveau et comment optimiser son cerveau. Et en plus, vous serez inscrit sur la newsletter. J'ai une chaîne YouTube aussi, ce nom Docteur Denis, donc Docteur Denis, Denis avec un Y et un S, où là encore je donne plein d'éléments. Et sinon, donc j'ai des formations, des méthodes, on va dire, pour arrêter le sucre, enfin, consacrées aux personnes qui ont des acouphènes, les douleurs chroniques, l'arrêt du tabac, la gestion du stress et le sommeil. J'ai également fait une formation sur le biohacking relativement généraliste, qui est chez Vivo Vojo. Vivo Vojo, c'est un diffuseur sur la santé naturelle. Donc là, vous pouvez trouver cette formation sur Vivo Vojo. C'est une formation très générale sur le biohacking. Et j'ai une formation plus dédiée aux professionnels, aux cadres, aux dirigeants, aux entrepreneurs qui ont envie d'augmenter leur capacité physique et mentale. Et là, c'est via mon site internet. Donc le mieux, c'est de me contacter directement sur mon site et à ce moment-là, d'être en contact. Et puis, bon, il y a aussi tout un tas de projets à venir. Il y a un livre en cours d'écriture sur la longévité et il y a énormément comme ça de choses en attente. Voilà. Le problème, c'est que ben, je suis comme tout le monde, dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc même si je les optimise, ben, il reste quand même pas assez de temps, pas autant de temps que je le voudrais.
Donc, plein de promesses pour l'avenir, docteur Denis. Ben, de toute
Yes.
façon, je mettrai tous les liens dans l'article lié pour suivre tes actualités. Et puis, donc, j'imagine qu'effectivement, le mieux, c'est de s'inscrire à la newsletter. Comme ça, on sera au courant des prochaines sorties. En écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out. Comment est-ce que tu te sens maintenant?
Bah, de toute façon, tu m'as fait parler pendant 2 heures. Je pensais même pas qu'on allait tenir 2 heures, mais en fait, le temps il passe extrêmement vite. Je pense que quand on est des personnes passionnées, tout passe beaucoup plus vite. Non, je te remercie vraiment pour ton travail. C'est pas de la flagornerie, mais c'est vrai que je suis tous tes écrits depuis un certain temps. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, honnêtement, tu disais pas grand-chose. T'étais un peu le petit mec dans son coin qui faisait deux trois trucs comme ça, par-ci par-là, et je trouvais que c'est Et tiens, c'est marrant, c'est intéressant ce qu'il raconte ce gars. Et puis plus en plus, ce que tu as fait, ça a pris de la grandeur, de la valeur. Et je trouve que c'est super cool parce que tu commences à avoir un petit peu de visibilité et c'est chouette. Il y a d'autres personnes un peu comme toi dans cette mouvance. Il y a par exemple mon pote Vlad de Haven Longévité. Pareil, hein, au début, le gars dans son coin, là, il interrogeait des spécialistes. Et puis plus en plus, ça prend de l'ampleur. C'est extra parce que, voilà, je te dis, moi, je m'intéresse à l'anti-âge, plutôt à la longévité depuis des années. Je développe le biohacking depuis plus de 3 ans. Au début, quand j'en parlais, les gens, enfin, j'ai l'impression d'être un peu un extraterrestre. Maintenant, le mot biohacking commence à être connu. Ce goût pour la longévité commence à être connu du grand public. C'est grâce à des gens comme toi. Donc, je te remercie. C'est grâce à des gens comme Vlad. Je les remercie également. Parce que voilà, moi je suis le médecin, je suis le mec de terrain, je suis pas forcément un très bon communicant et je trouve ça super justement de pouvoir associer ces talents et c'est comme ça que le monde avance.
Merci beaucoup Denis pour ces compliments, ça me touche beaucoup. À moi de t'en faire parce que j'étais ravi de te recevoir à l'antenne de Limitless. On a eu l'occasion d'échanger un petit peu par le passé avant puisque tu étais auditeur du podcast et j'ai découvert ce que tu faisais et j'avoue que de prime abord, je pensais que tu étais très dans la science, tu vois, dans la supplémentation, etc. Et peut-être un petit peu décorrélé de cette partie plus ancestrale, plus liée à la sagesse, à l'âme. Et pour moi, t'as dû le comprendre, les deux sont très enthousiasmants. J'adore l'évolution de l'humanité. J'ai l'impression qu'on vit une période complètement folle qui est remplie de promesses et je trouve ça passionnant, tu vois. Même des outils comme CRISPR et toutes les promesses que ça peut avoir, mais aussi tous les risques sous-jacents. Donc, j'adore la technologie, j'adore la nouveauté, j'adore l'innovation. Mais d'un autre côté, j'aime aussi la nature, la sagesse ancestrale, notre héritage de Cro-Magnon, cet aspect de conscience, de comprendre aussi que malgré toute l'intelligence humaine, l'ingénierie de la nature est sans commune mesure et que on joue un petit peu aux petits alchimistes, c'est rigolo et c'est marrant, mais en réalité, on est quand même un peu des apprentis sorciers et la sagesse universelle, elle est plutôt au sein de nos cellules et on l'a pas encore vraiment percée. Donc, je trouve que t'as beaucoup d'humilité face à ça. Et en même temps, comme tu le dis très bien, t'es aussi un homme de terrain, un médecin réanimateur. Donc, apporter cette légitimité d'une formation, on va dire structurée, universitaire, tout en ayant l'ouverture intellectuelle pour t'intéresser à des sujets connexes qui sortent entre guillemets complètement de tes attributions d'origine, parce que il y a quand même beaucoup de médecins qui aujourd'hui, en travaillant 80 heures par semaine, et puis fort des 8 ans, 10 ans d'études qu'ils ont fait, se disent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde et ont pas envie de continuer à se former, d'apprendre, d'explorer, de découvrir. Et c'est clairement pas ton cas et je t'en remercie. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui continuent à porter la pioche et la lanterne pour faire avancer la médecine et le monde.
Écoute, je te remercie. Fais juste attention au coup de grisou.
Je t'offrirai un canari pour Noël.
Cool.
Allez, merci beaucoup Denis, à bientôt.
Merci bye. À toi David, super cool, bye bye.
Tu connais l'effet papillon ? Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreenewspodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Pace Case.
And I'm Bachelor Clues.
We host Game of Roses, the world's best reality TV podcast. We're covering every show in reality TV at the highest level possible. We analyze The Bachelor, Love is Blind, Perfect Match, Vanderpump, and anything else you find yourself watching with wine and popcorn.
We break down errors, highlight plays, MVPs, and all the competitive elements that make reality TV a sport. And we interview superstar players like Bachelorette Caitlin Bristow and Big Brother champion Taylor Hale.
If you want to know so much about reality TV, you can turn any casual conversation into a PhD-level dissertation, you definitely want to check out Game of Roses.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.